Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, podcast 91, un podcast exceptionnel, unique. Eh oui, il y a quelques semaines, on réunissait autour de la table à repasser la plus célèbre d'Internet, eh bien la fine fleur du jeu vidéo français. Et aujourd'hui, pour ce podcast, on vous donne la parole, messieurs, un maximum de bruit. Il y a les lecteurs de Gameblog qui sont parmi vous. Je vous entends pas.
Allez,
ça fait... Là, ça fait plaisir. Voilà, effectivement, vous l'avez vu, nous sommes ici au Loft in Game, quatrième édition du Loft in Game. Et vous avez eu l'occasion la semaine dernière de pouvoir être sélectionné. Alors, on a pris les meilleures questions. 15 finalistes, j'ai envie de dire, la crème de la crème des gameblogueurs. Mais on pense aussi à vous qui n'avez pas pu être là, hein, bien sûr.
Voilà, qui font pas partie de la crème de la crème.
Bah voilà, une petite pensée émue pour ces personnes. Mais en tout cas, avec nous, on aura Goul, on aura Falae, Diz, Marco, Despo. Enfin, bon, ils sont une quinzaine. Hein, et puis, pas mal de public aussi parmi nous. Vous pourrez voir tout ça dans les questions.
Ils sont tapés comme des gros sauvages parce qu'il y avait de la bière. Hein.
Il y a même une fille.
C'est vrai. Il y a même une fille. C'est toujours. En tout cas, avec nous, on a bien évidemment Raon, on a Angel, on a Julo, on a Candy qui est quelque part.
Il est caché.
Même si, voilà, il est caché comme d'hab en mode furtif anxiogène, bien évidemment. Il n'y a pas de table à repasser, je suis bien désolé. Mais néanmoins, nous allons commencer à vous donner la parole. Donc, c'était un peu la promesse de cette édition de ce podcast 91. Et on va commencer avec toi, Groul. Tu avais une question à nous poser directement, parce qu'on rappelle, hein, ce podcast est thématisé. Il y a une partie pour les questions directement liées à Gameblog, une partie qui s'intéressera plutôt à l'évolution du marché du jeu vidéo, une partie qui s'intéressera plutôt à poser la question passion ou divertissement, et puis après s'intéresser aussi un peu à l'avenir, parce que vous avez posé des questions célestaux, cosmiques forcément, sur qu'est-ce qui va se passer donc bien dans les années à venir. Et ben, on y répondra tout à l'heure. Alors Groul, quelle est ta première question?
Déjà bonjour.
Bonjour Groul.
Et ma question était donc, quel jeu que vous attendiez particulièrement a été pour vous une des plus grosses déceptions de toute votre vie de gamer?
Et là, je vois converger beaucoup de regards sur moi, je ne comprends pas pourquoi. je ne sais pas, qu'est-ce qu'on s'est dit aujourd'hui au Lofting Game? Je commence à répondre.
Vas-y, allez, vas-y, ouais. Allume-le, toi, ça fait des semaines que t'entres.
Voilà, alors Resident Evil 5, probablement le jeu qui était parmi, clairement, mes plus attendus. Hein, une réalisation somptueuse, monstrueuse, j'aurais envie de dire. Et un gameplay, c'est aussi vide qu'une coquille d'œuf dont on aurait retiré le blanc et le jaune à la fois. Ça fait un petit peu mal, mais oui, le gameplay a vieilli. L'évolution graphique est là, mais on retrouve pas ce frisson essentiel. C'est vraiment un jeu qui a, pour moi, à mes yeux, perdu un peu son âme. Mikami est parti et ça se ressent clairement. Le scénario pour les fans de Resident Evil est intéressant, reste intéressant, mais ça n'en fait pas un grand jeu. Depuis, il y a eu Dead Space, il y a eu d'autres expériences, et surtout le gros problème, c'est que ce n'est plus du tout un survival horror.
Mais même en tant que jeu d'action, c'est pas...
Et c'est un petit jeu d'action, et quand on le compare à un Gears of War 2, puisque mine de rien maintenant ils sont dans la même cour, c'est moins bon. Quand on le compare à un God of War, j'en parle même pas. Donc le problème, c'est que il se retrouve comme ça entre deux chaises et qu'il a du mal à s'asseoir correctement.
Vous aurez les détails par écrit.
Dans le test, hein, bien sûr, à trouver. Donc moi, à titre personnel, c'était l'un de mes jeux les plus attendus, et c'est vrai, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est vraiment un jeu décevant. Voilà, ça c'était...
Les attentes étaient énormes en même temps.
Oui,
hein,
c'est vrai.
C'est souvent comme ça. Hein.
Raon, est-ce que toi t'aurais...
Moi, le jeu qui m'a peut-être le plus déçu, ça va être Deus Ex 2. Forcément, révisé après la tuerie qui était le premier, et qui est toujours d'ailleurs. Mais le deuxième, il y avait rien à en récupérer, quoi.
Par rapport cosmique, en fait.
Ouais. Enfin non, mais c'était pas un mauvais jeu non plus, si tu veux. Mais bon, quand tu places des attentes de ouf à la suite d'un jeu aussi fondateur que Deus Ex, forcément, quand tu te retrouves avec un truc ultra consolisé pour le coup, avec des tout petits environnements où tu vois clairement, alors ça c'est l'action, ça c'est la furtivité, ça c'est l'électronique, ça n'a plus grand intérêt.
C'est un peu ce que j'ai envie de dire pour Resident Evil 5, c'est que c'est un jeu qui est sans surprise aussi, donc et c'est là où c'est décevant quand tu passes derrière un chef-d'œuvre comme l'était Resident Evil 4, même s'il bouleversait un peu la donne par rapport au survival horror classique, mais il le faisait bien avec inspiration, avec âme, c'est tout ça qui est parti. Julo, est-ce que toi tu aurais un titre que t'avais vraiment attendu comme ça et qui t'aurait déçu?
Shenmue 3. Vous êtes chiant parce qu'à chaque fois je suis prévisible aussi.
Non, bah pas du tout.
C'est pas de notre faute, vieux.
Oui, je sais, certes. Oui, alors donc si les jeux pas sortis peuvent compter, Shenmue 3 la plus...
Shenmue 3 m'a beaucoup déçu.
Donc, vous pourrez le maintenir, hein, un jour. Shenmue 3 m'a déçu, alors que le jeu n'est pas sorti. Mais ça, c'est la force de Julo aussi.
Exactement.
C'est toujours surprenant.
Non, mais c'est vrai, c'est pour moi une très très grande frustration, comme beaucoup. Et voilà, alors quand on me parle de frustration et de déception, ça me revient toujours en tête.
Ça
voilà.
Te titille au fond de toi.
Ça occupe tout le reste,
ça me titille.
Angel, est-ce que toi qui aimes tant de jeux, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y en a un qui particulièrement t'aurait déçu ?
Le Démineur 2.
C'est vrai qu'il y avait une grosse attente derrière ce titre.
J'étais dégoûté.
Qui forcément derrière n'a pas assuré, j'ai envie de dire. Non, pas mieux, comme dirait Monsieur Renard dans Les Chiffres et les Lettres.
Bah, le Solitaire.
Le Solitaire, très bien. Bon, bah, je crois qu'il est temps de passer la parole à Falae pour une nouvelle question. Ça va, Falae ?
Ça va bien.
Alors, quelle est ta question ?
Alors, donc, bonjour, merci pour l'invitation.
Bah, écoute, ça fait plaisir, c'est 40 euros.
Donc, ma question était la suivante. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de raccrocher, entre guillemets, la manette pendant une longue période ? Donc, quand j'entends longue période, plus de 2 jours, on est bien d'accord.
On est d'accord. Julo, qui veut prendre la parole ?
Oui, moi, ça m'est arrivé. Je vais faire super geek en fait, mais c'est pendant une période où je me suis énormément intéressé à l'animation japonaise et ce genre de trucs, et j'ai complètement lâché le jeu vidéo, sauf que je lisais tous les mois Joypad à l'époque.
C'était il y a longtemps alors.
Ouais, c'était il y a longtemps. Et ça m'a permis voilà, de rester informé, etc. Donc, mais oui, c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué. Ça a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans, un truc.
Donc comme en fait,
ça.
C'est intéressant. T'as raccroché la manette, comme le disait Falae, mais en fait, tu t'intéressais toujours aux jeux vidéo, donc ça restait important dans ta vie.
Ouais, ouais, tout à fait.
C'est beau. Oh, Angel, un raccrochage de manette.
Ouais, moi aussi, j'ai décroché. Mais j'ai décroché, mais finalement.
Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans.
Ou voire même 15. Non, mais j'ai décroché comme souvent on décroche en fait quand tu t'intéresses à quelque chose, je sais pas, la musique ou les littératures. Il y a toujours un moment où t'es vraiment à fond dedans, où tu t'intéresses, par exemple, tu veux acheter. J'allais dire autre chose. Tu t'achètes 1 million d'albums parce que t'es à fond dedans, et puis finalement ça retombe un peu et tu reviens plus tard. Et le jeu vidéo, c'est un peu pareil, mais finalement comme tout quoi.
Mais c'est marrant parce que un peu dans le métier qu'on fait nous, parce qu'on doit tester plein de jeux, machin, etc. Quelque part, on a raccroché un petit peu quelque chose au moment où on a commencé à en faire une profession, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout cette.
Je suis pas d'accord, moi.
Moi non plus.
Moi, je suis vraiment pas d'accord.
Parce que moi, si tu veux, j'ai une espèce de frustration constante qui est de jouer à des jeux auxquels j'ai pas envie de jouer, par exemple, et de rater des jeux auxquels j'ai très envie de jouer. Et ça m'arrive très, très, très souvent.
La seule frustration que j'ai, c'est de pas avoir le temps de finir certains jeux.
Oui, c'est pas seulement de pas les finir, mais il y a des jeux que j'ai pas encore touchés, BioShock par exemple, Honte sur moi par exemple. Voilà.
Mais j'ai pas fait Dead Space non plus, j'ai pas eu le temps.
Ouais. Pas Dead Space, je l'ai loupé aussi. Voilà.
Justement, Raon, puisque t'avais la parole, est-ce qu'il y a un moment, une période un peu critique, j'ai envie de dire, ta vie de gamer ?
Je crois pas que ça ait duré plus de quelques mois au pire, mais j'ai eu des périodes effectivement où tu prends des distances, quoi. Ouais, tu fais autre chose. Soit parce qu'il n'y a pas forcément de titre qui te motive à ce moment-là, soit parce que t'as autre chose à foutre dans ta vie, je sais pas.
Bah moi j'ai envie de dire c'était en 92, j'avais alors 12 ans et ma mère m'a fait honnêtement sans déconner signer un papier, ça veut dire que mon dernier jeu devait être, enfin c'est pas 92, c'est 94 exactement, puisque mon dernier jeu devait être Final Fantasy 6, elle m'avait dit derrière, parce que je jouais pas mal, elle m'avait dit derrière t'arrêtes les études c'est important à ce moment là etc. Le problème c'est ce qu'elle se rendait pas compte, c'est que Final Fantasy 6 allait être mon jeu ultimate, qu'elle allait décupler ma passion pour le jeu vidéo et qu'au lieu de me le faire arrêter, et ça allait décupler cette envie de continuer et justement pire, de devenir journaliste, ce qui allait devenir le cas 3 ans après, de ce média. Et donc,
t'avais même pas ton bac quand t'as commencé.
J'avais pas mon bac, non, effectivement, ouais. J'étais en première. Et donc, j'ai décroché peut-être un tout petit peu derrière FF6 à un moment où, effectivement, en fait, elle m'a fait la pression.
C'est pas toi qui as décroché, c'est ta mère qui t'a fait décrocher.
Qui m'a fait un peu décrocher. Et puis, le problème, c'est que j'allais entre les intercours, qui parfois duraient un quart d'heure, chez un pote qui habitait juste à côté du lycée, et on jouait à Resident Evil et Wipeout. C'était le début de la PlayStation.
Tes intercours, ils étaient quand même super longs, parce que moi, c'était 5 minutes. Hein.
Ouais, moi, c'était un quart d'heure parfois, parce que les profs mettaient du temps, et on avait un pote qui nous appelait par portable pour dire ça y est, elle est arrivée, ramenez-vous.
Par portable déjà, le bahut de bourgeois.
95.
Je suis désolé. Hein.
Ah, c'est vrai.
Je suis désolé, et ce portable s'appelait le Bebop.
Oh là 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 là.
Voilà. Et c'est là où ça a été le premier choc avec Resident Evil. Je me rappelle encore de faire passer sur les premières PlayStation en maintenant le capot ouvert la démo dans Tobal de Final Fantasy VII. Et j'ai fait OK, c'est pas possible, j'y vais à gogo. Et bam, ça y est, c'est parti. La passion du jeu vidéo, d'autant plus. Voilà.
Petite anecdote rigolote.
C'est fort sympathique et qui coûte 50 euros.
C'était vraiment très intéressant.
Rien n'est gratuit ici.
Non, mais j'en ai une à rajouter. C'est ça que je voulais dire.
Alors vas-y, Julio.
Sachant que ta mère a également permis que tu deviennes journaliste. Excusez-moi.
Oui.
J'ai voulu la caser là-dedans.
Dossier. Ok.
Voilà, donc parce qu'il faut savoir que sa maman lui a donné la permission de devenir journaliste en jeu vidéo.
Respectez ma mère, s'il vous plaît. Je vais tous sortir d'ici.
Bon, c'est pas vrai, d'accord.
C'est... Non, non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Oui, elle a voulu rencontrer le rédacteur en chef de l'époque, Jean-François Maurice, TSR. Ouais. Mais en fait, elle est sortie de ce rendez-vous, elle a kiffé parce qu'elle a vu des têtes comme Rahan, Greg, Traz, TSR, justement.
Et comme on est beau comme des dieux.
Et ben, elle s'est dit, mon elle fils est entre deux bonnes mains, et c'est comme ça que ça a pu continuer.
Heureusement, il n'y a pas eu de Black Salas à ce moment-là. Ça devait être un des rares moments, d'ailleurs.
Voilà, Kendi ne devait pas être dans le coin.
C'est qui cette
nana? Merci, Falaï, en tout cas, pour cette question. Tu l'as vu, hein, des petites anecdotes. Hein. Voilà, on fait ce qu'on peut. The Reaper, toi, tu as une question aussi qui va s'adresser, je crois, directement à Julot, hein, plus précisément.
Voilà, tout à fait. Alors, déjà, bonjour à tous. Alors, moi, ma question... alors déjà, c'est pas tout à fait la mienne. Je dois quand même, être sympa, la partager. C'était celle de Zip au départ, donc je pense qu'il faut lui laisser une petite dédicace quand même.
Zip, ouais, je t'ai vu, Zip,
il a pas pu venir, donc il est un petit peu loin.
Représente Zip, voilà. 071622.
Voilà, tout à fait. Alors moi, la question, c'était, je voulais savoir, Julo, comment tu faisais pour arriver à concilier donc jeux vidéo et vie de père.
Oui, parce que toi, t'es papa aussi.
Moi, donc. Je suis papa aussi. Je suis papa depuis à peu près 2 ans. Et parfois, c'est un petit peu compliqué.
Ils veulent jouer déjà à GTA, je comprends.
Ouais, bah voilà, ouais.
Pas facile.
Ils jouent déjà.
Hein. Julo vient de se rappeler qu'il a des enfants. Merde, 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 merde.
D'ailleurs, il faut que je vous laisse.
Voilà.
Non, alors, pour répondre simplement...
Il veut divorcer.
C'est très très difficile, effectivement, et j'y arrive pas trop, en fait, pour te dire la vérité. Sachant que, bah voilà, en plus j'atteins la trentaine, évidemment, enfin j'ai même atteint la trentaine.
Oui, ça fait déjà un an, gars,
voire deux même. Et depuis 28 ans, en plus, je suis très fatigué le soir, et quelque part, c'est un peu le seul moment où éventuellement, de temps en temps, je pourrais en profiter, et j'ai du mal. Et à vrai dire, c'est aussi pour ça que je loupe plein de jeux auxquels je voudrais jouer, j'y arrive pas. Voilà, donc comment concilier, je sais pas. Je te retourne la question si tu y arrives.
Ça, ce serait un mail.
Non, mais ce serait intéressant.
Explique-moi comment.
À 2 ans, ça reste encore peut-être trop tôt, hein, j'imagine, bien sûr.
Moi, j'ai une expérience un peu différente parce que, bon, déjà, je pense que toi, ton cas, c'est que toi, tu es aussi professionnel, enfin, tu es dans le milieu.
Oui, donc nécessairement, je joue, bien sûr.
Voilà, mais moi, après, le truc, c'est que moi, j'ai été père au foyer, je me suis occupé de mon fils pendant 1 an.
D'accord.
Et donc, à ce moment-là, j'ai quasiment plus touché de manette, quoi. C'est. C'était vraiment des périodes, très courtes. Alors essentiellement la PSP, voilà, les portables.
Nomade, ouais, forcément.
Ouais, nomade, parce que tu peux jouer au lit, tu peux jouer dans le canapé quand on a 5 minutes, etc. Maintenant, ça va un peu mieux parce que maintenant le petit il a grandi, donc.
Comment il s'appelle?
Nathanaël.
Une pensée pour Nathanaël.
Il joue à la Wii alors?
Non, c'est très rigolo. Il commence à attraper la manette de la PS3, il allume la console, il allume les jeux.
Ça fait bip.
Fais le jouer à Flower.
Ouais.
Et ça m'intéresse. Ça m'intéresserait. Non, mais ça m'intéresserait de voir un jeune enfant découvrir, parce que c'est très simple. Il va basculer la manette et voir peut-être qu'il va peut-être s'amuser et être scotché devant.
Je peux dire une anecdote rigolote. Ce matin, il a allumé la console. Il a réussi à allumer Lumines Supernova, donc sur PSN. Ouais. Et il s'est éclaté à entendre la musique. Non, il a entendu la musique et ça l'a éclaté. Voilà, évidemment, il n'a pas joué, mais c'était assez rigolo. Il s'allumait déjà, donc du coup, je m'inquiète pas trop.
Nickel.
Non, mais voilà, quoi.
Bon, en tout cas, Zip, dont l'esprit habite d'ores et déjà ce podcast, effectivement, nous soulignait que lui, effectivement, c'est plus du jeu sur console nomade.
Si je faisais pas ce métier, je sais pas si je jouerais encore beaucoup, quoi.
Franchement, voilà. Je sais pas comment vous dire. Moi, mon chat, je suis filé à bouffer le matin et le soir. Et entre les deux, c'est peinard. Hein.
Écoutez, chacun ses expériences de vie, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de mode d'emploi pour élever des enfants.
Ce que dès que je parle de ma fille, Angèle parle de son chat.
Il y a une sorte de transfert, ça me fait un peu flipper.
Elle fait penser un peu à mon chat.
Ouais, peut-être.
Chacun sa cam.
Voilà. Allez, justement, on va passer le micro à Dibs. Dibs, je crois que c'est... j'ai envie de dire, c'est le taulier. Hein. 44 ans au compteur, gamer dans l'âme.
Toujours jouable.
Je crois que ça mérite effectivement... C'est notre AHL du jour, j'ai envie de dire. La casquette en plus. Alors Dibs, tu avais une question à nous poser.
Oui, alors donc bonsoir à l'équipe de Gameblog. Merci pour l'invite. Moi, j'avais une petite question pour vous. Votre pire expérience de testeur. Alors je précise, de testeur et non de joueur. Hein. C'était à titre professionnel.
Alors j'ai envie tout de suite qu'un micro soit donné à Angel, qui forcément est notre maître S, la loose, les problèmes de jeu, les vénéritudes.
Forcément, il aura trop d'histoire.
Oui, voilà, c'est parti, on peut le lancer. Angel.
Je sais pas.
Si, moi je sais.
Non, mais il y en a plein.
Je te la mime.
Ouais, mais non, mais celle-là, tout le monde la connaît.
Alors, pour les gens qui n'ont pas l'image, je rappelle, c'est un podcast audio. Julo qui essaie de mimer quelqu'un qui court, ça t'évoque quoi, Angel?
Un jeu pourri donc j'ai dont mon cerveau a carrément évacué.
C'est quoi Julo?
C'est ça le pire.
Fur Fighter.
Ah. Ouais. Fur Fighter. Je crois qu'il y a eu un 2.
Pourquoi Fur Fighter, mauvaise expérience?
La démarche justement du...
parce que le jeu était super dur, qu'il était super pourri, mais qu'il fallait quand même avancer et qu'il y avait un mec, il y avait un personnage qui avait une animation qui te donnait mal à la tête au bout de 30 secondes.
Et t'avais envie de le tuer?
Et j'ai mis une semaine à passer le premier niveau.
Testeur est un véritable métier et vous le voyez ici à Gameblog, nous avons les meilleurs.
Il était super dur et il était super long. Vraiment. Mais sinon, après, il y a des reportages. Hein. Et ça, les reportages de la loose, je crois qu'on a tous, donné là.
Ah bah hein, tiens, vas-y, juste rapidement, bon reportage.
Moi, une fois, je suis parti dans une campagne anglaise, je me souviens même plus où c'était. Mais vraiment campagne profonde. Hein. Mais
c'était genre, pas chez Codemasters où il y a...
Non, tu rigoles. Non, mais Codemasters à côté, c'était New York. Hein.
Ah ouais, d'accord.
Mais non, là, c'était vraiment la campagne avec les vaches et
t'as
tout.
T'as déjà
le bazar.
Été chez Codemasters?
Non.
Parce que
non,
c'est vraiment une putain de ferme. Hein.
Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, enfin moi, pour être poli avec le développeur, je lui dis, oh, c'est vrai, vous êtes quand même peinard ici. Ouais.
Vous êtes au calme.
Et le mec, enfin moi, en plus, moi j'aime pas la campagne, ça me fait un peu flipper.
Le très urbain. Non,
ouais, voilà. Alors dès qu'il y a pas de béton, je flippe. Et là, le mec a la bonne idée de me dire, ah, tu m'étonnes ici, tu peux crier autant que tu veux, personne t'entendra jamais.
Le truc bien rassurant, bien évidemment.
Donc là, j'ai eu un peu une sueur froide et je crois que j'ai eu peur de plus jamais repartir. Et je vous jure que c'est vrai. J'avais appelé Julo d'ailleurs en détresse. Parce que le taxi en plus arrivait.
Ah bah tu vois, t'avais une couverture réseau. De quoi tu te plains?
Ouais, une barre. Non mais je m'en souviens encore.
Oui,
mais
c'est dans le même genre, j'ai le souvenir d'être allé en Angleterre, je sais plus pourquoi, dans un truc un peu similaire. Et je t'avais envoyé une photo du parking qui donnait sur.
Ça c'est ta vue.
Sur ma chambre d'hôtel. Ouais. C'est assez flippant la campagne anglaise.
C'est ça. Parfois il y a des press trips qui virent au calvaire.
Ah toi t'en as.
Et en plus c'était pour voir un jeu de merde.
J'ai deux anecdotes extraordinaires.
Mais... C'était pour voir le jeu des Jeux Olympiques d'hiver.
Ah pas mal.
Un superbe jeu.
Raon, un souvenir comme ça un petit peu tendu de...
J'en ai deux. Il y en a un dont on a déjà parlé. C'était Turok sur Xbox.
Oui. Mais avec les pterodactyles qui explosent,
voilà,
c'est ça.
Voilà, c'est ça. Les...
Normal, logique.
Celui-là, c'était, mais ça a été assez atroce, ouais. Mais je crois que ma pire expérience, ça va peut-être en faire bondir beaucoup, ça va être FF11.
Ah ouais? Pourquoi? Ouais.
Parce que c'est un putain d'MMO et donc il faut jouer comme un ouf et je ne supporte pas FF11. Je déteste ça.
Ah ouais?
J'ai été ultra déçu. D'ailleurs,
combien de personnes ont bondi? Oh, ça va, ça reste dans les normes. Y a
moi
pas
j'ai
eu
bondi,
soucis.
Mais à l'époque, quand tu m'as dit ça, aujourd'hui je me suis habitué. J'ai vu un bon MMO. Tellement de défauts dans le jeu que je ne voyais pratiquement plus que ça. Ça a été horrible.
Mauvaise expérience.
Bah oui, parce qu'en plus, t'es vraiment obligé de jouer super longtemps. Et comme dans ce putain de jeu, tu perds tes niveaux. Mm-hmm. Quand tu t'es pas dedans et machin, et tu fais une merde, tu tombes sur un groupe pourri, tu te tapes un donjon, tu perds de niveau, t'as perdu 4 heures, 5 heures de taf, quoi. Donc c'était l'horreur.
Oui, d'accord. Donc ça devient plus un plaisir.
C'est ça. D'ailleurs, il y a 4 ou 5 heures de taf.
Ouais, c'est ça. C'est ça. En parlant d'anecdotes, justement, et de press trip, moi je me rappelle, c'est la sortie de Echo the Dolphin sur Dreamcast. Et les développeurs s'appelaient Appalooza et étaient à Budapest. Alors, petit voyage, normalement, aller-retour dans la journée, on prend l'avion, etc. Bon, super. On arrive, bon, 14 heures, on conduit du développeur. Le jeu, franchement, était sympa et tout. C'était bien.
Super jeu.
Mais on était très speed parce que l'avion, il repartait à 18 heures. Et puis, du coup, bah, il nous dépose à l'aéroport, mais genre 2 heures avant, genre à 16h, en fait, bon, bah, on a 2 heures à perdre. L'aéroport de Budapest, pour refaire, c'est pas 350 mètres carrés, hein, au bas mot, et il y a 4 avions qui partent dans la journée, quoi. Bon, donc on se pose avec 10 journalistes, on est peinard, et puis tout d'un coup, on se retourne, et puis on voit la queue gigantesque qu'on n'avait pas vu arriver, on n'a pas compris ce qui s'est passé, et la nana, alors qu'on n'avait aucun bagage, ne nous veut pas nous laisser passer. En clair, on rate l'avion, sauf que le prochain. Il est à 14h le lendemain. Et qu'on était seuls paumés comme des cons. Et que l'hôtel le plus proche, il était à Perpète, je sais pas quoi. On est resté dans l'aéroport. On a dormi dans l'aéroport. Avec fermeture de l'aéroport. Gardes en Kalachnikov qui font la ronde dans l'aéroport le soir. Des gens qui viennent après. Nous, on a fait quoi? Genre 18 heures d'attente avec des macros et des putes de Budapest qui arrivaient au petit matin. L'angoisse absolue. Et au final, on a fini par aller dans les chiottes et prendre du PQ, les enrouler et faire du foot avec. Voilà, c'est voilà.
Une combine au cas où, c'est ça, si vous vous retrouvez coincé à Budapest.
Des nanas qui faisaient aussi qu'ils lavaient les escalators sur le coup de 4-5 heures du matin. Enfin, il y a un moment, ça devient plus drôle, quoi, en fait. Voilà, donc genre d'expérience interdite. Où il y aurait aussi une Cold Blood, hein, où j'ai cherché pendant une semaine une énigme que finalement, on m'a appris que
le jeu était bugué.
Et que j'aurais pu chercher encore longtemps, mais j'en pouvais plus, je pétais un câble, parce que je devais quand même écrire 6 pages dessus. Voilà, c'était un peu nos anecdotes, des moments un peu relous, Dibs. Il y en aurait beaucoup d'autres. Hein. Oh, mais à la fois, il y en a tellement d'autres qui se passent tellement bien.
Et pourquoi tu me demandes pas mon avis?
Ben si, tu l'as dit.
Ah bon ?
T'as parlé de ta chambre avec l'appareil photo. Et... Mais tu en as peut-être encore eu autre.
De ma chambre avec l'appareil photo ?
Oui, tu as fait une prise photo de ton parking.
Ah ouais, non, mais c'était que dalle ça. Non, non, mais j'avais envie de raconter le test de Metal Gear Solid 2. Alors, au demeurant, c'était un bon truc. Et Angèle, tu pourras en témoigner parce qu'il est, en tant que bon ami, il est resté avec moi toute la nuit pour boucler ce test. Et c'était le jour de la fête chez HR. Il était complètement bourré. Et difficulté supplémentaire, donc ce test qui devait faire 8 pages. Je devais l'écrire et donc prendre des photos du jeu sans prendre une seule photo de Raiden parce qu'on voulait conserver.
Oui, pour pas spoiler le personnage principal, c'était pas Snake.
Voilà, donc j'ai dû me faire chier à prendre parce que Raiden ça dure pas.
Snake,
il arrive tout de suite.
Snake, ça dure pas longtemps, pardon. Et donc il y avait que des photos de Snake et je m'étais démerdé. Et ça avait duré vraiment toute la nuit, quoi. Et je m'étais démerdé avec le theater à la fin pour remplacer Raiden par Snake dans les cinématiques, prendre des photos des cinématiques, etc. Et bon, c'est un bon souvenir au final, mais je t'assure que bourré à cause de la soirée Hachette et pendant 8 heures d'affilée.
Moi, je suis sûr, on n'a pas rigolé.
Et je te...
bah, j'étais solidaire, hein, mais,
ouais,
mais
je
on n'a pas rigolé.
Encore.
Écoute, voilà. Tu m'avais donné un coup de main.
Et sinon,
séquence bisous, tu m'avais donné un coup de main pour je sais plus quel jeu aussi.
Ouais. Sur Fighters.
Peut-être.
Non, c'était Metroid Prime.
Ah, écoute.
T'avais eu, enfin bref.
Et je ne parle pas de Paris-Marseille Racing.
Oh,
voilà.
Oh là là.
Des titres d'Avilex.
Un titre voilà. Angèle d'Avilex.
Voilà. Allez, on va passer le micro à Marco. Marco, tu as une question qui s'adresse directement à Raon. Ah. Elle a une importance. Attention, concentration, émotion.
Bah, c'est bonjour à tous déjà.
Hello.
Donc, ma question s'adresse à Raon. Et on a beaucoup remarqué que tu apprécies Braid.
Oui, c'est vrai, je plaide coupable.
Tu es très perspicace, Marco.
Très perspicace, ouais. Enfin, c'est un chose qu'on a beaucoup ressenti au niveau des podcasts. Ouais. Donc je voulais lui demander si pour lui, enfin même pour vous tous, si des jeux faits comme ça, fait maison avec les tripes, allaient avoir tendance à continuer, à perdurer, vu le succès de Braid, ou rester occasionnel, tout simplement.
Alors moi je vois deux aspects particuliers, parce que Braid est particulier à plus d'un titre. Donc développé par Jonathan Blow, l'aspect développement indépendant, ça va perdurer, ça va même probablement s'installer beaucoup plus grâce à la distribution digitale. On aura l'occasion, je pense, de reparler du jeu indie de manière plus approfondie, mais c'est effectivement une scène et une méthode et une philosophie de développement qui existe depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui devient accessible à tous par l'intermédiaire des Xbox Live et tout ça. Donc je pense pas que ça, enfin je pense que ça restera moins occasionnel si tu veux que ça a pu l'être jusqu'à présent. Par contre pour ce qui est de Braid, l'optique de Jonathan Blow et la façon dont lui travaille est vraiment très particulière. Et donc mon avis pour avoir des perles au niveau de celles que j'estime être Braid. Il faudra attendre son prochain jeu.
Oui, carrément.
Ouais, il y a de fortes chances. J'espère me tromper et qu'on aura d'autres créateurs qui auront l'occasion de nous faire partager des choses aussi brillantes.
World of Goo qui finalement était fait par deux personnes, c'est pas vachement moins.
Il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux indie qui sont géniaux et qui sont vraiment vraiment super intéressants. Mais Braid, c'est très particulier. C'est vraiment ça va au-delà du simple plaisir ludique. C'est vraiment pour moi. Énormissime quoi.
On attend quand même énormément Sniper Logic.
Voilà. Il faudra que le développeur se tire un peu les doigts du fondement, mais ça va peut-être venir un jour.
Vous pourrez poser la question, hein, Candy qui est présent, mais qui refuse d'être proche d'un micro, je ne comprends pas. Bah alors viens avec nous, viens. En tout cas, ouais. Bah, tu l'auras compris, hein, effectivement, ça tient vraiment à cœur à Raon, Braid.
Tu veux nous parler de Sniper Logic?
Tu peux nous parler un petit peu deux secondes de Sniper Logic, Candy? si.
Désolé,
non, c'est une vieille vanne toute pourrie. Non, pas du tout. Non, par contre, par rapport à la question, quand tu disais qu'un jeu fait avec les tripes, c'est pas possible, parce que les jeux ne sont pas faits avec des tripes, techniquement c'est impossible. Mais je sais.
Attention!
C'était une image en fait. Hein.
Non, c'était tout ce que j'avais à dire.
C'est pas notre faute, hein. On y est pour rien.
Voilà, c'est Candy.
Allez, je me tourne vers toi, Despo. Tu as
un truc.
Alors, juste.
Il y a quand même des blockbusters et des jeux normaux qui sont pas indie qui sont faits avec les tripes. Hein. Faut quand même pas non plus penser que tous les jeux sont pas faits avec le cœur, avec passion.
Et je pense à Rockstar. C'est peut-être un peu facile ou quoi, mais pour moi, Rockstar a une.
Oui, il a une
comme ça,
approche,
un côté rock'n'roll. Enfin, voilà. Mais voilà quoi, ils font.
Ouais. Non, mais je voulais juste rajouter ça effectivement, parce qu'il faut pas croire non plus qu'il y a que les indépendants qui sont des développeurs qui s'investissent vraiment.
C'est pas
dans
parce que
projet,
c'est gros que c'est forcément mauvais, voilà. et viscéral. Hein. La Team ICO par exemple, c'est des titres qui sont quand même vraiment habités par leurs créateurs. Et pourtant, c'est des gros jeux dans l'absolu, hein. Ça coûte cher et il y a des équipes assez conséquentes derrière. Voilà, on a fait le tour sur la question.
Pour moi, je pense.
Pour Julo aussi
oui.
On est bon. Vous donnez votre aval, nickel. Alors, micro à Despo qui le tient déjà en main, la casquette à l'envers. Yes. Petite question.
Je crois que si on a remercié Zip déjà, qui n'est pas là pour sa question, il faut remercier Nick Hornby pour la mienne.
il y a que des trafics de questions. Ouais. Ouais, c'est ça.
Vous êtes condamné à vivre le restant de votre existence avec une seule console et trois de ces jeux.
Ah merde.
Imaginons que vous partiez sur une île déserte avec vos
proches. Je me tire une balle.
Bon, genre, imaginons, on est
quel
dans Lost.
Quel serait
en fait
votre ultimate bundle perso?
Heights.
Et alors là, je vais demander une faveur, mais je vais demander à Angel Davina de répondre en premier.
Allez, c'est parti, Angel. La pression maximale, attention. Console, trois jeux.
Ou PC?
Le blanc de plus de 20 secondes est interdit.
Ok, avec l'iPod Touch. Et là, je joue fat, parce que moi, je pourrais y foutre des MP3 et je pourrais jouer. Et
Il essaie toujours de détourner les règles, lui. Hein.
Et les trois jeux, je sais pas...
C'est un iPhone, il faut que ce soit un iPod Touch.
Je suis sûr qu'il y a de l'émulation.
Katamari Damacy.
Mais par contre, je n'y connais absolument rien en émulation et en piraterie. Donc, il y a probablement des softs qui permettent l'émulation, donc je ne sais pas.
Despo, tu voulais rajouter quelque chose?
Le solitaire. Oui, je tiens à préciser pour les lecteurs de Gameblog.fr que la question était plus complète et que j'avais même dit à CAF, qui n'est pas là ce soir, pouvait prendre son PC et 3 MMO.
Donc ça veut dire quand même sur ton île, il y a l'électricité,
déjà. Il y a Internet.
Ouais, elle est pas si mal que ça, ton île. Il y a un bunker au milieu, 4, 8, 16, 23. Okay. Et on entend des bruits chelous. Okay.
Pour ceux qui auront l'occasion de lire la question, oui, effectivement, j'ai précisé qu'il y aurait l'électricité sur l'île déserte.
Très bien. Bah, moi, je prendrais Locke. Hein.
Bah, vas-y, oh, alors.
Non. Moi, je te laisse la parole. Hein. Je suis poli.
Merde. Alors, je pense que je prendrais peut-être Final Fantasy Tactics en version PSP.
Non, mais tout sur la même console. Hein. C'est ça le piège, mec.
Ah, merde.
Ah, ouais.
Hey. Ah, merde. Oui, bah non, je peux pas prendre la PSP, c'est pas possible. Putain, mais je vais être obligé de prendre un PC, du coup. Je prendrai un PC, je prendrai Fallout 2, je prendrai...
C'est pas facile, hein. J'ai envie de dire des
scores. Un MMO, alors on va dire peut-être bon, WoW à défaut d'autre chose, même si en ce moment j'ai pas trop envie d'y jouer.
On te souffle DX depuis un moment.
Deus Ex ?
Bah, ce sont les gens là, ceux que je ne connais pas.
Ouais.
Et que je n'ai pas envie de connaître.
Ou alors plutôt Tetris, tu vois. Parce que je pense qu'en niveau durée de vie, on pourrait pas faire mieux. Ouais, on va dire ça, allez.
Voilà. Okay. Donc... C'était le rooster de Raon, Julo.
J'aime pas cette question.
Monsieur, sortez de ce bail.
Non, parce que franchement, je sais pas à quel jeu je pourrais jouer éternellement, entre guillemets.
Parce ce qui est difficile, c'est que c'est sur la même console. Parce que moi, trois jeux, c'est facile, mais sur la même, waouh.
Dragon Slayer, peut-être.
Alors, Shenmue 1, 2, 3, comme ça, je ne pars jamais sur cette île.
Oh là 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 là.
Non, j'ai... Probablement un jeu, un MMO ou un truc comme ça, alors que j'ai pas du tout l'habitude de jouer à MMO, mais voilà, dans l'optique d'y jouer toujours, voilà. Si la question est quels sont tes trois jeux favoris ever, j'y arrive pas. Moi, voilà, c'est pas ça, donc voilà. C'est pour ça que j'ai dit un MMO alors que je ne joue pas au MMO.
Moi, je prendrai Nintendox, parce que comme ça, au moins, je me sortirai jamais seul.
Et moi, je pense que je prendrai au final pour la PlayStation, première du nom, et j'y mettrai Final Fantasy VI qui est sorti, comme ça, ça me permet en loose day de l'avoir. J'y mettrai un bon PES des familles, genre ISS Pro Evolution.
Si t'es tout seul sur ton île, là,
c'est pas grave, je ferai les cacto gameux, je m'entraînerai à faire des coups francs avec Robert Charlot.
C'est un peu triste quand même.
Être tout seul sur une île, c'est pas la teuf non plus, non, j'ai envie de dire quand même à la base. Et j'y mettrai Resident Evil 1er. Le tout premier. Mais ce ne sont pas forcément mes jeux préférés, mais sur une seule console. C'était le sens de ta question, j'ai envie de dire. Elle était complexe.
Elle est très complexe.
Elle est très complexe.
Est-ce que vous me permettriez, moi, de dire mon bundle?
Oui.
Allez, vas-y.
Non. Alors. Toi, non. moi, je prendrais une GameCube avec Mario Kart.
Mais oui, putain, bien sûr, Mario Kart.
Avec Soul Calibur et Smash Bros. Melee.
Ouais. C'est pas mal, c'est un beau rooster, effectivement. Quoi. Mais c'est compliqué, hein. c'est vraiment pas évident.
En fait, on n'a pas trop réfléchi avant, en plus.
Non. Allez, on va passer à la deuxième grande thématique, celle où vous allez d'ailleurs pouvoir réagir un petit peu, hein, puisque les questions vont s'adresser à tout le monde, on ouvre un petit peu le débat, une fois de plus. Donc là, l'évolution du marché du jeu vidéo, et on commence avec une première question de Vador. Vador qui, j'ai envie de dire déjà, bonjour.
Bonjour.
Tu as une question à nous poser sur, je crois, les développeurs.
Alors ouais, effectivement, j'ai une question qui est un peu moins marrante que ce qu'on vient de dire maintenant. En fait, je trouve que de nos jours, on accable beaucoup les développeurs, les éditeurs. Ils sont pas assez créatifs, ils ont plus les couilles, si je peux le dire, de faire des jeux, d'innover. On se plaint beaucoup et en fait, je pense qu'on oublie peut-être un petit peu la responsabilité des joueurs.
Bien sûr.
Et je voulais savoir si dans le fond, c'est pas très cool, mais est-ce que les joueurs, on n'a pas un peu ce qu'on mérite en fait ? Parce que ici, à Gameblog, quand je regarde autour de moi, on a rassemblé des passionnés qui s'intéressent vraiment aux jeux vidéo. Mais quand je vais faire un tour sur d'autres sites, d'autres forums, je suis désolé. Hein, quand je joue, quand je suis en contact avec d'autres communautés comme celle de World of Warcraft, je suis souvent en fait vachement déçu quoi, par le niveau ou par les attentes des joueurs. Ou alors quand on se rend compte qu'il y a des jeux comme... Alors je connais pas les ventes de Bread, je sais pas si c'est bien vendu ou pas.
C'est bien vendu, pour un jeu indie c'est très bien vendu.
Parce que des jeux un peu créatifs comme Heroes Edge par exemple, ça a pas vraiment marché.
Non, là, non.
Donc voilà, dans le fond, dans l'ensemble de la communauté des gamers, dans le monde en fait, est-ce qu'on n'a pas un peu ce qu'on mérite quoi ?
Moi j'aurais envie de répondre à ta question parce que je suis complètement d'accord avec toi. On entend effectivement beaucoup de gamers, hardcore gamers, qui disent à chaque fois on en a marre des suites, il n'y a pas d'originalité dans les jeux, les blockbusters, il n'y a pas que ça dans la vie, etc. Et puis quand vous avez effectivement des petites pépites où il y a des moments où il faut prendre des risques, oser un petit peu y aller, on se rend compte que la première chose que disent les gens c'est ouais mais c'est cher, c'est un peu ça, le débat qu'on a eu avec Flower par exemple, ou Braid, qui sont des petits jeux par leur prix et des expériences incroyables par leur qualité, et finalement comme si le jeu vidéo était lié à un ratio prix-temps passé.
Quantité en fait, au lieu de chercher la qualité, voilà.
Effectivement, donc, je pense qu'effectivement c'est vraiment quelque chose qu'il faut complètement dépasser et que les joueurs aujourd'hui, en tout cas les joueurs avertis, les vrais, ce qu'on va appeler les gamers, osent, soient un peu justement passionnés mais au-delà de simples mots. Et hier, j'aimerais bien savoir un petit peu justement quels sont les derniers jeux sur lesquels vous avez pris un petit peu des risques et aussi en parallèle à ça, je dirais, par exemple, là tu parlais de Mirror's Edge, aux développeurs, aux éditeurs, là je pense à Electronic Arts qui d'ailleurs commence à l'avoir un peu compris, qu'il n'y a pas que Noël non plus dans la vie et que quand de octobre, novembre, décembre, on se tape 50 jeux blockbusters énormes, on le sait tous, hein, je pense qu'ici, il y a peu de personnes qui ont acheté 30 jeux à Noël, ça me paraît assez évident, du coup il faut faire des choix et que parfois, c'est humain, on n'ose peut-être pas l'originalité et on reste un petit peu pantouflard, mais qu'un Mirror's Edge mieux placé dans l'année, ce serait probablement mieux vendu aux éditeurs aussi d'en prendre conscience. Raon.
Ouais, donc effectivement, pour revenir sur ce que tu disais par rapport au prix de certains jeux, moi je ne comprendrai jamais comment est-ce qu'on peut dire que un Braid à 16€ c'est trop cher. Ouais. Un portal qui était à quoi, 5$ en plus à l'époque, sur, parce que Steam faisait pas les euros encore, je crois. Enfin, bref.
Les jeux de la Team ICO aussi qui sont très courts.
Oui, oui. Enfin,
il vaut mieux une aventure courte mais d'une intensité incroyable qu'une aventure longue, délayée, avec les 30 derniers niveaux qui sont chiants parce que répétitifs.
C'est comme le mourir. Cul finalement.
C'est ça, c'est ouais. Ça. Non, mais il a super raison, c'est exactement comme le cul. C'est une question d'expérience et pas une question forcément de durée. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est une très bonne analogie, bravo Angèle. En tous les cas, nous c'est comme ça qu'on le ressent, et donc pour revenir plus précisément sur ta question, il est certain que tant que les joueurs achèteront certains produits, la plupart des développeurs ou des éditeurs chercheront à commercialiser ce genre de produits. Donc c'est aussi à nous, en tant que joueurs, de témoigner de nos envies et d'avoir de temps en temps les couilles d'acheter des choses qu'on n'aurait pas forcément prises de base, pour au moins témoigner du fait que ça peut nous intéresser.
Un acte d'achat est un acte quelque part un peu militant aussi, hein, sur des petits jeux. C'est comme quand on vous demande de donner votre opinion à une élection ou quoi que ce soit. Cette parole-là, il faut la prendre. Et pour le jeu, il faut peser de ces petits 70€, de ces petits 15€ pour un petit jeu indépendant. Si ça ne se vend pas, c'est sûr qu'il n'y en aura pas d'autres. Par contre, si les développeurs voient qu'il y a des gens que ça intéresse, ils peuvent continuer. Et il faut toujours récompenser les choses qui nous font un peu rêver. Julo, je crois que tu voulais...
Oui, non, mais sur le côté, on a les jeux qu'on mérite, etc. Enfin, les succès, en tout cas, par rapport aux succès, etc. Je pense qu'ici, on est entre joueurs, etc. On est en train d'essayer de donner des leçons à des gens qui achètent Braid, qui achètent Mirror's Edge, etc. Le problème, c'est qu'on est noyé dans la masse maintenant. Il est là le problème. Donc, moi, selon moi, on n'a pas les. Enfin, j'ai pas les jeux que je mérite. Voilà. Il y a tout un tas de gens qui ont les jeux qu'ils méritent, mais voilà.
Mais j'ai envie de dire justement à ces gens à qui on parle, c'est à eux.
Mais les gens à qui on parle achètent Braid. Regarde, qui n'a pas acheté Braid, qui n'a pas joué à Mirror's
Edge. Passer le message à des gens qui sont peut-être un peu moins gamers, mais leur dire ose une autre expérience, regarde ce jeu, en tout cas d'être des mains tendues. Nous qui sommes des passionnés, on doit justement essayer d'intéresser d'autres gens qui sont peut-être un peu moins passionnés et qui du coup vont aller que sur les méga blockbusters, qui sont pas forcément mauvais, hein, mais peut-être leur faire découvrir autre chose. Je crois que Bouliz, tu avais une petite réflexion là-dessus.
En fait, tout à l'heure on parlait de risque et de Mirror's Edge. Et moi j'ai pris le risque de jouer à Mirror's Edge, et c'est un gros risque parce que
tout ce qui est FPS, en général, ça me fait vomir. Mm-hmm. Et ben, je l'ai acheté, le jeu. J'ai fait 3 niveaux. Et ben, j'ai vomi. J'ai revendu le jeu. Mais voilà, c'était un jeu qui m'attirait, qui avait une esthétique assez particulière, une bande-son très, ouais, très prenante, avec le vent qui siffle, la respiration de Face et tout. Voilà, j'ai tenté, j'ai vomi. Je me suis arrêté. Quoi.
Je crois quand... est-ce que tu as vu que dans les options, il y avait la possibilité de rajouter un viseur?
Ouais, non, mais
parce
c'est
que
pas ça.
Apparemment, ça aide les gens qui vomissent beaucoup devant les FPS. Tu rajoutes un point donc, de visée qui ne sert à rien dans Mirror's Edge, à part à ne pas vomir.
Par défaut, je crois qu'il y est.
Il y est par défaut. Il me semble. Vomi quand même. Bon,
quand même, ouais.
Ouais, Angel ?
Tu es irrécupérable.
Alors, moi, par rapport à Mirror's Edge, parce qu'on dit que c'est créatif et tout ça, Mirror's Edge, c'est juste un jeu de Yamakasi, quoi. Non, mais sans déconner, quoi, c'est un jeu.
Bon, alors toi, je pense que tu n'as pas joué à Mirror's Edge.
Non, mais c'est un jeu.
Je crois que c'est surtout ça.
Non, mais ça reste un jeu au repas corp, quoi.
Non, pas vraiment.
Je pense qu'on peut le huer parce qu'effectivement, Angel, je crois, n'a rien compris à Mirror's Edge, hein, définitivement. Cantis.
Oui, juste pour accompagner mon collègue ici à côté qui a parlé de Mirror's Edge, donc de développeur EA. Moi, j'avais un a priori sur Dead Space. Et donc, moi, je ne jurais pratiquement que par Eternal Darkness et la série Resident Evil. Et j'hésitais beaucoup à jouer à Dead Space. Et je m'y suis plongé dedans et je suis complètement convaincu. Quoi. Franchement, faites-moi une suite ou... continuer dans cette lignée parce que franchement c'est une ambiance, c'est les sons, tout est là pour avoir une expérience plaisante.
Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, t'as osé prendre ce risque-là, mais maintenant faut pas hésiter à le dire à d'autres aussi quand on vit un bon moment en littérature ou au cinéma. À chaque fois il y a le bouche à oreille, c'est le plus important. Reaper.
Moi je voulais juste réagir. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque justement sur le manque un petit peu de réactivité des joueurs. Mais il y a quelques fois, j'ai l'impression quand même que malgré tout, les développeurs, ils ont quand même, parmi les suites de suites, etc., des fois, j'ai l'impression qu'ils prennent des risques à travers les suites. Je pense par exemple, j'ai comme exemple Final Fantasy VIII, qui à mon avis, et au niveau du gameplay, était très culotté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a partagé beaucoup de joueurs.
Je crois que Julo est complètement d'accord avec toi.
Je suis avec toi.
Ouais, voilà, ouais. Parce que j'en parlais tout à l'heure dans Love In Game avec je sais plus qui, et je disais que finalement c'était une des rares fois où le gameplay JRPG avait été complètement bouleversé.
Ils ont supprimé les MP notamment.
Voilà, mais aussi l'expérience. Enfin, y a le ouais, système d'expérience a disparu, etc. Et pourtant, c'est lui. Pardon. C'est pourtant
alors, j'ai vient de déboucher une bouteille, donc voilà.
Il y a, on parlait de Resident Evil 4 aussi, qui est quand même assez culotté par rapport à ce qui avait été derrière. Et j'ai quand même l'impression que souvent, certains développeurs, certains studios sont obligés, s'ils veulent apporter quelque chose, ils sont obligés de passer par les suites. Malgré tout, on peut pas non plus blâmer à 100% les suites.
En jeu vidéo, contrairement au cinéma, la plupart des suites sont généralement meilleures. C'est pas toujours le cas, hein, mais parce que techniquement plus abouti, le gameplay un peu plus rodé. C'est pas toujours le cas, hein, mais ça arrive effectivement.
Tu veux qu'on parle de Resident Evil 5 encore ?
Non, malheureusement non. Malheureusement non, mais Resident Evil 2 était une bonne suite à Resident Evil 1. Le 4 était exceptionnel, Julo.
Non, juste pour rebondir là-dessus, il y a quand même. Je sais pas si c'est un phénomène vraiment récent, si peut-être, mais en tout cas, il y a une vraie émergence des auteurs dans le jeu vidéo, je trouve. Et quelque part, c'est quelque chose qui peut nous sauver. Parce que, je sais pas, à la même manière que Edge, un magazine anglais qui ne marche pas bien du tout et qui est une vitrine, les éditeurs ont besoin de ce genre de vitrine. Et on le voit avec Sony, avec les jeux de Latimico. Et on peut le voir aussi même dans le changement de politique d'Electronic Arts, qui va certainement faire un autre Dead Space et un autre Mirror's Edge, malgré le peu de succès des jeux, quoi.
Allez, on va passer le micro à Jean Willow, hein, qui était avec nous la semaine dernière.
Bonjour.
Qui s'est encore tapé l'incruste, voilà. Putain, le lourd.
Non, juste un petit mot pour dire que voilà, il y a peut-être des jeux qui en valent la peine, mais le bouche à oreille, je pense que ça suffit pas. À partir du moment où un jeu est mal marketé, il ne marchera jamais. Voilà.
Merci de nous laisser cette lueur d'espoir.
Non mais c'est vrai.
Non mais c'est vrai. Donc en gros ton message est aux éditeurs aussi de eux-mêmes détecter quels sont les titres.
De marketer, voilà, de détecter les titres qui ont un vrai potentiel.
Pas seulement au niveau du développement, mais aussi au niveau du marketing.
Voilà, exactement.
Mirror's Edge a été très mal marketé par exemple.
Exactement.
Et ils ont refusé d'ailleurs de parler de parcours. Ils ont refusé des tas de trucs. Enfin, ils sont plantés quoi sur Mirror's Edge.
Comme à son époque. Beyond Good and Evil,
ouais. BGE qui est un voilà, jeu extraordinaire,
qui a un jeu extraordinaire pour la pub.
Et qui a été super mal marketé, voilà.
Ok, allez, on va passer le micro à Horizon. Horizon qui a une question sur laquelle on va pouvoir rebondir. Qui Horizon n'est pas là du tout. Horizon ne sera pas là. Alors du coup, hop, je me tourne vers Furious Angel. Ah bah du coup on passe à une nouvelle thématique. Et ça c'est ça qui est beau. Et on l'inaugure avec toi. Donc justement la question c'est le jeu vidéo divertissement ou passion? Et bien justement à ce sujet tu as une question. Ça tombe bien. Alors ta question Furious Angel.
Bonsoir.
Salut.
Donc, bonsoir à toute l'équipe hein.
Mets ton micro bien là.
Nous t'écoutons.
Alors ma question était la suivante. Est-ce que vous pensez que les deux autres grands, donc Sony et Microsoft, vont suivre la voie de Nintendo et donc se casualiser dans la prochaine génération de consoles ou dans cette génération. Mm-hmm. À savoir que j'entends par casualiser.
Je crois qu'il y a aussi la manette, enfin hein, la manière dont on joue.
Ouais, voilà le gameplay. Enfin.
Donc en gros la Wiimote, genre peut-être sabrer un peu les manettes actuelles de la 360, de la PS3,
voilà, rajouter des
simplifier.
J'avais mis casque 3D. Et détecteur de mouvement.
Raon, ton opinion là-dessus?
D'une part, ils ont déjà commencé dans une certaine mesure sur la PS3. Par exemple, c'est la 6 à 6 est née, c'est certainement pas par hasard. Je suis pas certain qu'ils suivront exactement ce que fait Nintendo à ce niveau-là, parce que quoi qu'on en dise, en tant que console HD et sur leur marché, elles ne fonctionnent pas mal. Elles se font tellement exploser par Nintendo qu'en comparaison, on a l'impression que ça ne marche pas. Mais en réalité, le business lui-même se porte à peu près comme les générations précédentes.
La PS3 suit notamment une courbe à peu près similaire à celle de la PS2.
Exactement, ouais. Qui est quand même encore, pour l'instant en tous les cas, la console la plus vendue
De tous les temps. Avec 120 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ce qui est quand même assez colossal, même si la Wii fausse toute la donne, puisqu'elle explose toutes ses stats. Hein.
Et puis elle est bien partie pour peut-être effectivement la détrôner, mais bon bref. Donc ils vont, de toute façon, d'une manière générale, je pense pas que le jeu vidéo a besoin d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. Il faut simplement qu'il développe plusieurs directions, et il faut pas qu'il y ait que Nintendo qui fasse du casual, il faut pas qu'il y ait que Microsoft et Sony qui fassent du hardcore, et ils vont tous... à mon avis plutôt s'orienter à faire mûrir ce média pour plusieurs publics, parce qu'au cinéma c'est pareil, c'est la même chose, même les grands studios ne font pas que des films, que des blockbusters hollywoodiens, il y a toujours c'est un espèce de phénomène de vase communicant. Alors c'est sûr que vu le succès de Nintendo, ils vont arrêter de se regarder le nombril et commencer à réfléchir peut-être à faire d'autres choses, c'est évident. Maintenant je pense pas que ce sera la seule direction qu'ils suivront, quoi.
Julo, je crois que tu voulais rebondir là-dessus.
Je suis d'accord avec lui. Cela dit, je pense vraiment qu'ils vont penser, ils vont devoir penser à quelque chose d'original, quelque chose de.
Ouais. Mais déjà, de toute façon, différent. C'est une nécessité pour te démarquer de tes adversaires. T'es obligé d'avoir des choses que les autres n'ont pas.
Un peu plus prononcé que le six-axis, par exemple. Ouais. Voilà. Ouais, je crois une réaction de l'action plutôt qu'une réaction, quoi. Mm.
Dibs, tu veux réagir?
Oui, une petite question justement à ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de la 3D, si vous en avez déjà vu?
Les écrans 3D?
Enfin, le jeu vidéo en 3D.
Donc avec un afficheur, avec un diffuseur 3D, si tu veux dire.
Oui, entre autres, que propose Sony actuellement en test. Bah,
ouais, je crois que
déjà, moi j'ai pu les essayer à Las Vegas au CES. Alors déjà, je vais répondre de manière très simple. Quand vous portez des lunettes, c'est la cata, hein. Parce que poser des lunettes sur des surlunettes, etc., ou avec les écrans qui intègrent les choses, c'est un peu étrange comme sensation. Apparemment, ceux qui portent moins de lunettes, enfin qui n'en portent pas, ont déjà un rendu un petit peu meilleur. Mais c'est pas si évident que ça. Et surtout sur les premiers essais qui ont été faits, effectivement, où il y a aussi Philips qui travaillait sur cette technologie. C'est prometteur, mais aujourd'hui, là, en 2009, c'est pas encore hautement convaincant. Du coup, c'est quand même pas pour tout de suite, même si on parle de puces qui seraient intégrées directement et même de recoding directement dans le jeu, qui permettrait avec n'importe quel écran de pouvoir en profiter. Je pense que c'est encore sur certains jeux, mais c'est pas encore pour tout de suite. Bon, si on parle de prospective dans ce genre de domaine, mais on en reparlera tout à l'heure sur un peu la partie à venir. L'holographie est peut-être beaucoup plus intéressante.
C'est une problématique technologique, c'est que des écrans qui diffusent des images en 3D, ça reste jamais que des écrans et qui ont des limites. Si tu veux, à mon avis, vraiment complètement tout changer, il faut effectivement passer à l'affichage holographique, c'est-à-dire une pièce dans laquelle tu peux afficher partout des éléments graphiques. Mais ceci étant, beaucoup de gens qui ont essayé et vu des écrans 3D de technologie très récente ont dit que ça tuait la gueule. Donc après.
Juste pour conclure sur la question tout à l'heure là de Cantis, Nintendo a quand même bouleversé la donne, a changé les esprits et a ouvert les yeux aux jeux vidéo. Énormément de personnes qui jusqu'à présent étaient soit réfractaires, soit carrément étaient négatifs là-dessus. Pourquoi ? Tout simplement aussi parce qu'ils ont ouvert la possibilité de pouvoir jouer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, des choses très basiques, hein, jouer au tennis en jeu vidéo, quand on n'était pas gamer, il fallait appuyer sur la direction qu'on voulait donner, une touche pour faire un lob, un autre pour faire un slice ou quoi que ce soit. Là, quand vous donnez juste un bâton, la Wiimote, et que vous lui dites « Non, mais t'inquiète, hein, t'as pas de touche à appuyer, t'as juste à faire le mouvement », ça bascule tout et les gens s'y intéressent. Après, pour nous gamers, ça reste light, etc. Mais ça, c'est un autre problème. Et je pense que cette ouverture-là, d'un gameplay simple et facile d'accès, les Sony, Microsoft, mine de rien, ils sont intéressés. Et par exemple, Sony est en train de travailler avec la petite iToy à un jeu qui s'appelle iPet, qui a l'air assez intéressant.
Alors, ça, c'est la réalité augmentée.
C'est la réalité augmentée, mais donc en fait, un petit personnage qui va apparaître chez vous, puisqu'en fait, ça filmera votre appartement, et puis hop, il arrivera. Vous pourrez dessiner par exemple sur une feuille de papier une voiture, une maison, vous le montrez devant l'écran, devant la caméra, et votre maison, votre voiture va être modélisée instantanément en 3D dans le jeu. Ce genre d'appréhension comme ça, qui donc sont évidentes à comprendre, va peut-être être une des voies du futur du jeu vidéo et sur les prochaines consoles. Enfin, en tout cas, on verra. Voilà, allez, on va passer le micro après Cantis. À Boulis qui nous vient Boulis non Cantis ah parce que oui c'est Cantis je zappe Cantis qui nous vient du Luxembourg
oui bonsoir.
bienvenue alors petite
alors,
question.
C'est un vrai pays
c'est oui juste pour enlever les petites idées c'est un vrai pays le nom officiel c'est Grand Duché de Luxembourg et c'est pas
classe.
Le jardin comme je
oui c'est pas le jardin ouais.
Voilà effectivement
bon, au moins vous avez un gouvernement non
un premier ministre du coup non le gouvernement j'en sais rien donc
alors ta question
moi j'aurais juste une question vous ne pensez pas que les consoles les plus vendues au monde ne sont pas favorisées parce qu'elles sont facilement piratables?
Si on prend la PlayStation 1 par exemple oui
clairement
c'était évident au jour d'aujourd'hui je ne suis pas certain que le piratage soit le plus gros problème.
Enfin, en tout cas, l'accélérateur de vente, parce que dans ce cas-là, la Dreamcast aurait cartonné, j'ai envie de dire, et la PSP serait largement leader. Ce qui n'est pas le cas.
Si, non, mais il a raison. La DS en a beaucoup profité aussi. Il y a qu'à voir avec quelle vigueur Nintendo est en train de lutter contre
les cartouches arcade.
La DS, alors mon cousin.
Angel.
J'ai un cousin qui est très balèze en piratage. Il s'est chopé donc une cartouche R4. Il fout 1 milliard de jeux sur sa cartouche et il est vraiment très content. Et il récupère toutes les ROM avec une facilité enfantine. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit.
Donc vous tapez hein, Davila, cousin, et puis c'est parti. Vous avez toutes les informations sur le site de Gameblog.fr.
Il est actuellement en prison, incarcéré.
Voilà, c'est ça. C'est bien ce podcast. C'est...
Et si la PSP marche un peu en dehors du Japon aussi,
c'est clair qu'on s'est souvent fait cette réflexion. Mais moi, à chaque fois que je vois quelqu'un dans le métro avec une PSP, il joue pas. Hein.
Non, il
met des films.
Généralement, il écoute du rap. En dos de l'ident de la tête. Mais j'ai pas dit que c'était mal. J'ai dit c'est un constat. Je suis désolé. Alcool, pornographie, donc, cannabis, jeux vidéo, M6.
C'est certain que le piratage, quand une console est facile à pirater, il est certain que pour une frange de la population, ça justifie son achat. Parce que t'auras pas besoin d'investir pour les jeux si t'as accès à un réseau qui te permet de te fournir les jeux. Mais je pense que moi, je sais pas. Je pense que la plupart des gens sont quand même encore assez.
Parce que pour rebondir Cantis. Là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un certain laxisme des développeurs ou des constructeurs de consoles qui ne protègent pas totalement leurs consoles pour laisser une certaine ouverture?
Alors là, par contre, non.
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 Par exemple, la PS3 qui est quand même complexe avec les Blu-ray aujourd'hui à pirater, finalement. Alors peut-être qu'on peut se poser la question aussi, c'est peut-être pour ça qu'elle a du mal à totalement décoller, mais c'est une question, hein, Angel.
Et puis surtout, il ne faut pas oublier que les revenus, le plus gros des revenus des constructeurs de machines vient des royalties sur les ventes de jeux. Donc une machine piratée avec des jeux qui ne se vendent pas, enfin des jeux très piratés, ça n'intéresse surtout pas les constructeurs, bien au contraire.
Oui, tu veux réagir? Je ne vois plus ton nom.
J'ai une pensée pour CAF qui trouvait ses disquettes, comme moi, il y a des années.
Non, c'était moi qui trouvais les disquettes.
Ah, je suis désolé.
Et j'ai demandé à CAF, mais comment ça se fait qu'en trouvant une disquette, elles deviennent plus compliquées?
Double capacité.
Mais CAF a répondu aussi.
Oui,
en
mais j'ai toujours rien compris.
À la grande question.
On te
moi, il m'a répondu et j'ai bien compris.
Bravo.
Mais
je te félicite.
Si on regarde une plateforme qui n'autoriserait que le piratage, ne fonctionne pas. La GP32,
personne n'en a entendu parler et pourtant elle fait tourner toutes les ROM MAME. Je pense
qu'il y a d'autres raisons aussi pour la GP32.
Quelqu'un qui peut s'acheter deux jeux par mois s'achètera deux jeux par mois. S'il peut jouer à 10 jeux dans le même mois, il y jouera. Mais il y a toujours un côté fétichiste avec le boîtier, le jeu, le CD et surtout la fierté d'avoir.
Ça, c'est en même temps, encouragé. Qui a disparu.
Ouais, et puis on reviendra là-dessus. Mais
on est encore comme ça, peut-être nous. Mais...
Je crois qu'il y a Vagabond qui veut réagir. Je suis assez d'accord avec toi, Vagabond. Ouais.
Merci. Donc bonsoir à
alors
tous.
Alors qu'il n'a même pas réagi.
Encore. Non, merci.
Oui, donc, c'est très fort.
Non, en fait, je voudrais rajouter. On a aussi le. Je prends un cas tout bête. T'as le cas de la mère de famille qui veut faire plaisir à ses gosses et qui veut donc leur acheter une console. Je vais prendre l'exemple de la DS et qui va voir, par exemple, chez une de ses copines qui a la fameuse DS et qui possède une des fameuses cartes R4. Donc elle va dire, ah bah c'est bien ça, on peut mettre plein de jeux dessus. Et moi, j'ai souvent le cas où on me disait, où est-ce que je peux acheter ça? Est-ce que je le trouve à la Fnac? Donc moi en train d'expliquer non tu c'est pas des produits on va dire entre guillemets légaux enfin on va dire illégaux et pour eux alors bon quand t'es gamer effectivement t'aimes bien avoir le boîtier la notice tout ce qui va bien avec mais au final quand t'es une mère de famille et que tu veux faire plaisir à tes gosses tu vas te rabattre sur cette solution de facilité qui plus est beaucoup plus économique que d'acheter effectivement 10 jeux dans le mois qui vont coûter 40 ou 50 euros au final et qui vont peser lourd sur le
budget.
Donc
écoutez bien ça, les pirates ce sont les mères de famille.
Entre autres. M6. Bon écoutez, hein, de toute manière le cas du piratage est quand même assez insoluble et assez complexe hein, mais effectivement c'est pas forcément un accélérateur de vente mais forcément ça y contribue en tout cas pour écouler les consoles même si c'est vrai que c'est vraiment sur les jeux que les éditeurs et les constructeurs se font la plus grosse marge donc en tout cas ils n'ont pas intérêt c'est clair et en tout cas Gameblog nous on condamne le piratage forcément hein. Allez on passe le micro à Boulis qui a une question très spécifique
Ouais alors rebonsoir En fait, ces 10 dernières années, il y a eu un peu un désintérêt du jeu vidéo, jeu de combat 2D.
On en a même fait un podcast d'ailleurs.
Ah, je m'en souviens plus. Mais
peut-être. Bah, je te le dis, c'est vrai.
Vous pouvez écouter ce podcast.
Enfin, il y a eu un très gros désintérêt. Et là, depuis l'arrivée de Street Fighter, qui est sorti un peu de nulle part.
Street Fighter 4, ouais.
Street Fighter 4, pardon, ouais. Et qui fait des ventes phénoménales. Et le prochain King of Fighters 12 qui s'est là assez prometteur.
Ouais, qui vient d'être annoncé un peu pour la sortie américaine et européenne.
Alors, est-ce que cette année 2009, c'est le retour du jeu de combat grâce notamment à l'avènement du online sur console quoi.
Alors, c'est vrai que ça a toujours été un problème le online parce que la plupart des jeux de combat demandent beaucoup de précision entre les deux adversaires, même s'il n'y a que deux joueurs et que, en fait, la plupart des gens se disent que ça doit être simple à faire, mais en fait, c'est très compliqué parce que le vrai problème du jeu en ligne, c'est ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire le temps que va mettre l'information pour parvenir d'un joueur à l'autre. Et c'est vrai que Street 4, en tous les cas, a un mode réseau qui est exemplaire. Mmh. Ça fonctionne extrêmement bien, pour peu que tu joues pas contre un mec qui est à perpète les pédzouilles avec une connexion satellite pourrie. Mais
un pauvre.
Voilà. Enfin bon, bref. Donc oui, ça marche très très bien. Et en tous les cas, ce qui est certain, c'est que d'une part, il y a la scène des joueurs de compétition qui jouaient sur Street 3 jusqu'à aujourd'hui, qui va passer sur Street 4. Apparemment, ça se vend plutôt bien. Et je ne vois pas personnellement pourquoi un principe de jeu qui marchait très bien il y a 5 ans ne fonctionnerait pas aujourd'hui avec une réadaptualisation graphique. Ou en tous les cas, je ne sais pas, mais partout autour de moi, les gens ont super envie de jouer à Street 4. Là, d'ailleurs, on l'a ramené exprès ici, histoire de vous latter un peu la gueule tout à l'heure. Enfin, ça va marcher, c'est certain. Après, je ne sais pas si ça va être vraiment un retour du jeu de baston.
Ah bah en tout cas, c'est sûr que les ventes de Street Fighter 4 seront épluchées, décortiquées pour voir si ça reprend vraiment. Parce que
tu disais
ventes exceptionnelles, mais c'est pas si exceptionnel que ça. Hein.
Ils ont shippé 2 millions.
C'est à nuancer. Hein.
Et en plus, justement, les chiffres japonais, alors autant il était dans le top 10 la première semaine, là, cette semaine, il est carrément sorti. Ouais, il est 26e ou 28e.
Dibs, ta réaction.
Je rebondis sur Street 4. Donc moi, j'y joue pas, mais je voudrais savoir, parce que beaucoup de joueurs m'en ont parlé, est-ce qu'il est si difficile que ça en mode solo?
Franchement, c'est chaud. Hein.
Niveau.
On a tortue géniale.
Oui, bah déjà pour bonjour à tous pour commencer. Pour répondre sur Street Fighter 4, moi je trouve dur au niveau du mode solo simplement à cause du boss de fin qui est cheaté parce que il est juste imbattable quoi. Où on arrive à peu près facilement au boss, mais une fois qu'on y est, bah on le recommence 16 fois avant d'arriver à le battre.
Mais je voulais aussi réagir aussi à la question de base, donc le retour des jeux de combat en 2D, où bah, moi, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'autres jeux 2D qui vont ressortir, étant donné que y a Street Fighter 4 qui sort, King of Fighters 12, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent aux jeux de combat 2D, donc je pense que les deux, ces deux gros blockbusters, et je pense qu'ils vont prendre absolument toutes les parts de marché pour le jeu de combat 2D.
Bouliz, tu n'as pas l'air d'accord.
Ouais, mais alors justement, je parlais de retour comparativement aux ventes de, des jeux SNK qui, ces dernières années, sont un peu sortis en catimini, ils sont assez peu vendus au final.
Il faut voir aussi que c'est plus SNK dans l'époque maintenant, c'est SNK Playmore, ouais. C'est géré de la Corée. Enfin,
même en termes de distribution, je veux dire, ouais. En France, c'est assez discret. Quoi. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui jouaient il y a 10 ans aux jeux de combat, ne jouent plus faute de temps et faute de, comment dire, d'adversaire, entre guillemets, en sens où si on ne va pas chez son pote qui joue très bien, ou voilà, différents potes, on a du mal à vraiment rester dans le truc. Quoi. Mm-hmm. Et l'avantage du online, c'est justement ça, c'est qu'à n'importe quel moment, on se fait interrompre et on rencontre des gens comme ça, hop, qui sont plus ou moins bons et ça permet de progresser. Et c'est vraiment ça qui est nouveau. Quoi.
Juste là, petit sondage très rapide. Qui a Street Fighter 4 et qui aime les jeux de baston ?
Oh là, voilà,
okay. Oh là, bon, il y a au moins 50%.
Beaucoup plus même.
Il y en a beaucoup, quasiment l'intégralité. En tout cas, visiblement, chez les gamers, c'est le carton plein, j'ai envie de dire. Allez, on passe le micro à Ryder, qui n'aime pas qu'on le dise, mais néanmoins, Ryder 288, si vous le cherchez sur les forums. Et j'ai envie de poser la question, pourquoi qu'est-ce que 288 ? Alors attention.
Non, en fait, c'était parce qu'un pote, il avait 288 à la fin, et puis j'ai fait pareil, quoi.
D'accord.
Oh, donc Ryder 288, l'homme mimétisme. Tout à fait. Alors, ta question.
Donc voilà, moi j'avais une question, en fait, c'était, j'ai remarqué sur certains jeux, par rapport à l'intelligence artificielle, je trouve qu'elle n'est pas performante, quoi. Je sais pas, après, si c'est soit un manque de temps, ou soit c'est difficile à créer, mais par exemple, je prends un exemple, Far Cry 2, graphiquement, il est beau, mais
tu prends un exemple un peu
mais l'intelligence artificielle elle est catastrophique, quoi.
En gros, ce que tu veux dire, c'est que t'as l'impression que souvent c'est mis de côté par rapport au graphisme. En gros, on voit les démos, ça tue, puis au final dans le jeu, voilà, on est un peu déçu. C'est un peu le cœur de ta question. Raon, je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur particulièrement.
Ouais, l'IA, c'est un de mes sujets favoris aussi. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'une bonne IA en jeu vidéo n'est pas forcément une IA performante. Je vais expliquer ça. Une bonne IA est une IA qui te fait croire qu'elle est intelligente. Donc il y a beaucoup de paraître aussi. C'est-à-dire que, par exemple, prenons le premier Halo sur Xbox, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû y jouer. À l'époque, on disait de cette IA qu'elle était excellente, mais en fait, il faisait toujours la même chose. C'était pas l'intelligence artificielle, c'est juste qu'elle était très 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 exposée. Donc on voyait des réactions intéressantes, comme le grenard qui repart avec sa grenade pour faire péter ses potes, par exemple, mais il le faisait pratiquement tout le temps. Donc c'est pas la véritable IA, celle sur laquelle travaillent des chercheurs dont c'est le métier, etc. C'est quelque chose d'infiniment plus complexe que ce qu'on a dans le jeu vidéo et qu'on aura avant un bon bout de temps. Je crois que peut-être les seuls jeux qui font vraiment de l'IA comme ça, ça va être des Goblins ou des choses comme ça.
Quand je vois les gueules de tout le monde là, quand tu viens de dire ce titre, ça fait flipper, genre tout le monde a envie d'y jouer visiblement.
Ouais, mais c'est intéressant.
Pour Goblins.
Et alors donc, pour répondre à ta question, effectivement, c'est plus difficile de faire une bonne IA, en tous les cas un truc qui te laisse un souvenir où t'as l'impression que les personnages du jeu dans lequel tu joues réagissent bien à ce que tu fais. C'est beaucoup plus difficile parce que ça dépend beaucoup du contexte. Par exemple, faire une IA comme celle de Far Cry 1, où c'est très ouvert, tu vois, où les personnages peuvent se déplacer un peu n'importe où ils sont pas dans un couloir, à pouvoir aller juste vers l'arrière ou juste vers l'avant, c'est infiniment plus complexe à développer pour que ça fonctionne dans la majeure partie des cas que une IA dans un truc comme Fear 2 où c'est un grand couloir et où t'avances et où voilà, quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué à développer qu'un moteur graphique en soi, parce que on est des humains et que dès qu'on voit quelque chose qui n'est pas humain, on est programmé pour le voir le plus vite, très rapidement, quoi. On sent tout de suite.
Ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs, mine de rien, qui essaient de l'intégrer et le faire passer à une prochaine étape.
Il y a des gens qui
travaillent
dessus.
L'intelligence artificielle est quelque chose qui pompe énormément de ressources,
oui,
aussi techniques dans les consoles, et que parfois, il y a un moment,
voilà, on sait tous que effectivement, t'as des ressources limitées, quelles que soient les consoles, et on a beau en faire de plus en plus puissantes. Quand tu investis, je sais pas, disons 40 à 50% de la puissance de la machine sur laquelle tu développes pour faire un moteur graphique en colle plein la gueule, histoire d'en vendre en tête de gondole de la Fnac, c'est toujours 40 ou 50% de puissance que tu peux pas affecter, pour simplifier les choses, à de l'IA performante, etc. Et puis ça, il faut qu'elle réagisse vite aussi, parce que si elle met le temps avant de prendre sa putain de décision, de savoir dans quel sens elle va et tout, donc c'est très difficile à faire. Ouais.
Et j'aurais envie de juste poser une petite question. Quel est le jeu qui vous a le plus bluffé en termes d'IA ? Est-ce que quelqu'un a vraiment une fois eu une baffe en termes d'IA ? Alors Candy visiblement a une réponse.
En fait, moi je pense déjà que l'IA ça n'a jamais existé. Hein. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Alors, en fait, c'est que des scripts, en vérité. Les vrais IA n'ont jamais existé, à part dans un jeu, ouais. Opération Flashpoint. En fait, exactement. Merci,
ah,
merci.
Applaudit au fond.
Et en fait, c'est le jeu sur lequel je continue de jouer, parce qu'il y a une véritable IA, et les niveaux sont ouverts. Et, qu'est-ce qu'il y a ? Non mais allez-y. Sinon dans les autres jeux, non c'est du bullshit. Il y a jamais eu d'IA en fait. Vraiment, c'est que des scripts. Même dans il y a Jean qui veut parler.
Alors... En fait, on peut s'interroger qu'est-ce qu'une bonne IA et qu'est-ce qu'une mauvaise IA. Non mais c'est vrai parce que non mais attends. Par exemple,
alors,
dans Opération Flashpoint, moi mon point de vue c'est que ça sert à rien de frustrer le joueur. C'est-à-dire que si t'as une IA hyper développée avec le mec qui évite tes tirs, qui fait des roulades, qui s'en va, qui va te contourner dans le dos...
Un vrai humain, en gros.
Voilà. Mmh. Le joueur, il va prendre, mais aucun plaisir, je pense. Mmh. Parce qu'il n'y aura pas d'erreur de la part de l'ordinateur, mmh. Et ça devient très vite frustrant. Mmh. Et je pense que, en termes de développement, je pense que les gens qui développent l'IA des NPC se posent cette question-là. Qu'est-ce que veulent voir les gens ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Est-ce qu'ils veulent buter les gens facilement, pas facilement ? Et je pense que si on n'a pas une IA hyper compliquée, c'est que ça répond aussi à une demande des joueurs de ne pas être frustrés complètement. Ils veulent voir des roulades, des mecs se planquer. Mais au-delà, je ne suis pas sûr que ça serve le gameplay. Voilà.
Non, c'est assez intéressant. Raon, tu veux conclure sur la question ?
Juste un truc par rapport à ce que disait Candy justement avant, c'est qu'effectivement, il faut savoir un truc, c'est que la vraie IA est une IA, c'est quelque chose qui est capable d'apprendre et donc de s'adapter. Et donc, c'est pour ça qu'en jeu vidéo, on n'a pas d'IA, parce qu'en fait, c'est effectivement que des scripts.
Voilà. Mais en tout cas, les choses évoluent et on verra Rider si dans les années à venir, en tout cas, l'IA aura progressé. Et ce jour-là, on pensera tous à toi. Oui, c'est promis. Allez, ou pas, c'est pas gentil. Allez, on passe à notre dernier chapitre, la dernière ligne droite de ce podcast. Podcast qui vous donne la parole. Alors justement, Vagabond, c'est à toi. On va parler un petit peu d'avenir, de prospective, avec ta question.
Donc je dirais même que j'en ai deux, oui. Parce que vous m'avez très gentiment accordé deux questions. La première étant la dématérialisation des supports à venir, donc on va pas y couper très certainement, bonne ou mauvaise chose.
Bah justement, j'aimerais juste d'abord te poser la question à toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi c'est quand même assez mitigé, on en parlait tout à l'heure pour des petits jeux, apparemment vous avez tous surkiffé Braid, pour des petits jeux comme Braid, je pense qu'on les aurait jamais vus sortir sur des supports cartouches ou sur des CD, donc c'est une très bonne chose, à savoir aujourd'hui pour des plus gros jeux, disons un Gears of War, parce que moi j'ai beaucoup apprécié cette licence, je me vois pas demain acheter Gears of War 3 ou Gears of War 4 en téléchargement.
Pourquoi ?
Je dirais que je suis un peu comme tous ceux qui sont présents ici. J'ai des bibliothèques à remplir chez moi.
L'amour de la boîte, de l'objet.
L'amour de la boîte, le beau collector, donc on va payer 10€ de plus, on ne sait pas trop pourquoi, juste parce que c'est une boîte en carton. Mais effectivement, il y a ce côté, effectivement, le fait que j'affectionne l'objet.
Ouais, en tout cas, la dématérialisation est partout. Hein. On en parle avec les rumeurs de la PSP2 qui pourrait utiliser plus du MD et peut-être du téléchargement, comme le fait aujourd'hui l'iPhone et l'iPod Touch. Raon, ton opinion sur la question essentielle de la dématérialisation.
Ouais, moi, je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose parce qu'il y a un truc très important à prendre en compte dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est son prix. Et il faut savoir que donc, sur le prix d'un jeu, il y a plus de 40% qui représentent aujourd'hui la distribution, c'est-à-dire les gens qui vont mettre les boîtes dans les magasins. Mm-hmm. Et que la dématérialisation est probablement un moyen de réduire le prix des jeux.
Et aussi les emplois.
Même si ça coûte. C'est toujours
au passage.
ça coûte. C'est vrai que ça coûte toujours de l'argent d'héberger des serveurs et de distribuer les jeux de manière numérique, mais ça coûte moins cher, a priori.
Je crois, Tortue Géniale, toi, tu as un avis assez intéressant sur un point que la dématérialisation pourrait engendrer.
Oui, tout à fait, parce que on n'a plus de boîtes et de CD matériel. Ça va tuer un marché qui m'intéresse quand même pas mal parce que je suis quand même étudiant.
L'occasion.
C'est l'occasion.
Ouais, ça c'est très juste.
Et donc moi effectivement j'ai pas trop d'argent et puis l'occasion ça me permet donc de jouer moins cher, voire même de jouer à des jeux que j'ai loupés à l'époque. Par exemple j'ai acheté Conquer il y a 2 semaines, un jeu qui est sorti en 2003.
Ouais, ouais.
Les jeux sont distribués par téléchargement, je suis pas sûr que 5 ans après, je pourrais encore les télécharger pas cher.
Tu pourras sans doute encore les télécharger, mais quoi qu'il arrive, il faudra que tu les payes le même prix que n'importe qui, quoi. Voilà, ça, c'est certain.
J'aimerais donner aussi la parole à Plinz. Plinz, parce qu'il y a aussi quelque chose qui pourrait être induit par la dématérialisation.
Exact. Par exemple, tous les jeux que j'ai achetés sur Steam, une fois que le service ferme, comment je fais pour y jouer ?
En gros, si Steam fermait, comment tu retrouverais tes jeux, effectivement ?
Ça, il faudrait probablement poser la question à Valve, en fait. Mais
je pense que le jour où Steam ferme, c'est l'apocalypse, Angel. En fait.
Ah
c'est
oui, peut-être, ouais.
Non, mais en plus, c'est un lecteur qui l'a brillamment dit dans le forum. Le jour où Steam ferme, je pense que ce sera l'apocalypse. Enfin, ça voudrait dire que l'apocalypse est arrivé.
Mais en tous les cas, techniquement, a priori, les données sont chez toi, si tu les as. Et je pense pas qu'ils vont fermer du jour au lendemain, à moins de se prendre une bombe atomique sur la gueule. Donc, ils auront de toute façon la possibilité technique de dire, bon, bah voilà, on va fermer le service, on déverrouille tout, ce que vous avez téléchargé, vous l'avez, et puis basta. Et voilà, il y aura des solutions, je pense, effectivement.
En fait, effectivement, c'est quand même un cas assez complexe. Ça peut dire pas mal de choses. Angel, tu veux conclure sur ce sujet de la dématérialisation ?
Ouais, ça commence chiant. Alors, en parlant des métiers que ça allait pénaliser, alors déjà, il y a les graphistes, parce que forcément, il n'y a plus de jaquettes.
Ouais.
Et tout simplement, l'imprimerie.
Oui.
Voilà. Ouais, c'est tout, c'était...
Mais bon, les temps changent et c'est comme ça. Hein, donc, il y a des tas d'autres...
Il n'y a plus de poinçonneurs, d'accord, mais...
Alors, on va faire transmettre un micro à Quantis et après on conclut sur la dématérialisation.
Par rapport aux jeux non physiques, moi je trouve que je pense que là, dans le présent, je pense que c'est bien. Les jeux dématérialisés pour les petits jeux, c'est bien. Pour les portables, c'est bien. Les jeux physiques pour les consoles de salon ou DS, c'est bien. Je pense que si on reste comme ça, même dans 10 ans, je pense que ça dérangerait pas grand monde non plus.
Ouais, mais l'humain ne fait que avancer, etc. Mais quand on se posera des questions avec des gros blockbusters, avec des gigas à télécharger, ça pose aussi la question de savoir tout le monde n'a pas non plus une bonne bande passante et des connexions internet non plus.
C'est ce qu'on disait aussi. Et il faut voir, il y a aussi un autre truc à considérer, c'est qu'ici, mine de rien, on est tous plus ou moins dans la même moyenne d'âge. Mais les générations qui suivent et qui ont l'habitude de consommer ne serait-ce que de la musique de manière numérique n'ont pas du tout les mêmes habitudes et les mêmes attentes que nous. C'est-à-dire que nous, on affectionne encore beaucoup l'objet avec les collectors et tout ça.
Et eux, ils affectionnent un peu plus Simul.
Je pense que c'est une question aussi de philosophie et de méthode de consommation. Toute façon, quoi qu'il arrive, le milieu va le pousser parce que par rapport à ce que disait Tortue Génial tout à l'heure, c'est-à-dire le marché de l'occasion, eux, ça les emmerde énormément, le marché de l'occasion, parce qu'un jeu qui est racheté en occasion, c'est pas une vente de plus pour eux. Et ça les emmerde tellement qu'ils vont pousser la dématérialisation de ce point de vue-là, puisque chaque jeu vendu est un vrai jeu vendu. Ça arrivera quoi qu'il arrive.
Écoutez, en tout cas, on verra ça dans les années à venir. C'est en tout cas quelque chose qui va se développer, c'est une certitude. Julo le parlait dans un précédent podcast qui avait lieu pourtant à peu près en même moment que ce podcast-là, mais pour certains comprendront, que aussi il y avait l'émergence du contenu additionnel, téléchargement payant, des titres comme Prince of Persia qui vendent quelques semaines après un épilogue à 10€, les strings de Street Fighter 4 qui sortent à 4€ une semaine après. Effectivement, ça aussi, c'est induit par la dématérialisation des produits, et ça peut poser quelques questions essentielles. Est-ce qu'on se fout pas un peu de la gueule des joueurs aussi, parfois,
hein? Alors, cela dit, parfois, il y a des exceptions de contenu téléchargeable très très respectable.
Lost and Dan, par exemple, effectivement,
les mecs de Burnout, c'est vraiment l'exemple à suivre.
Mais ça en fait, c'est pas beaucoup, hein, quand même.
De toute façon, comme tout changement, il y a du bon, il y a du mauvais. Hein, et puis voilà.
Allez, on va passer la parole à Narsova. Narsova, petite question dont on avait déjà évoqué un petit peu sur le podcast anniversaire, mais c'était intéressant de revenir dessus.
J'ai vu ça. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Alors moi, j'avais une question qui était assez simple et peut-être qui va se poser dans les prochains mois, les prochaines années, j'en sais rien. C'est, est-ce qu'y a-t-il la place pour un quatrième acteur sur le marché des consoles? Je parle de salon.
En constructeur,
surtout.
Donc, tu veux dire.
Constructeur, oui, constructeur, acteur. Et est-ce qu'on verrait peut-être l'émergence d'un duo Samsung-Apple? On ne sait pas, peut-être. Qui pourrait attaquer justement le marché asiatique.
Mariage des deux, en tout cas, ça risque d'être compliqué. Samsung étant un peu plus proche de Microsoft que d'Apple. Mais
Samsung, ils sont proches de tout le monde, de tous ceux à qui, ils vendent des composants. Donc, eux, ce n'est pas forcément un intérêt pour eux de sortir une machine, quoi qu'il arrive, puisqu'ils vendent leur mémoire à tout le monde. Donc. Ils n'ont pas besoin de marché supplémentaire, ils ont déjà presque tout le marché. Après, moi je pense que pour la question elle-même, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la place pour un quatrième acteur, oui, dans l'absolu, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a une idée géniale et qui bouscule le marché. Ça a déjà vu. C'est pas parce qu'un marché est extrêmement concurrentiel que des gens ne prennent pas le risque ou n'ont pas l'idée qui leur permettrait de l'attaquer.
Et on pourrait poser la question aussi de manière un petit peu prendre sous un prisme un peu différent et de se dire, est-ce que les trois acteurs actuels, Microsoft, Sony et Nintendo, seront les mêmes dans 15 ans? On croyait dur comme fer que ces gars seraient éternels. Finalement, ils se retrouvent aujourd'hui très bien en tant qu'éditeurs, mais plus du tout en tant que constructeurs.
Moi, je constate une chose, c'est que Nintendo a su montrer qu'il y avait possible ouverture sur un nouveau marché qui était le marché grand public, casual comme certains le disent. Est-ce que justement un quatrième pourrait peut-être trouver quelque chose ou affiner justement ce marché plus que les trois actuels?
Déjà, j'ai pas l'impression que Nintendo le fasse mal, donc ça veut pas dire que quelqu'un pourrait pas le faire mieux, évidemment. Hein. Tant que t'as pas vu quelque chose, tu peux pas savoir que ça existe en fait, hein, de toute façon. Mais a priori, cette difficulté là qui était celle des constructeurs de consoles pendant très longtemps d'élargir le marché, elle est tombée maintenant. Donc c'est Nintendo qui l'a fait, très bien. Est-ce que Apple va se lancer dans le truc? Ils ont un autre avantage, c'est qu'eux, ils l'attaquent sur un vecteur qui est différent, puisqu'ils passent par la téléphonie et l'iPhone, et que la diffusion des jeux, il faut quand même voir qu'il y a plusieurs milliers de jeux sur iPhone à l'heure actuelle déjà, et que ça continue de monter, et que ça marche très 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 bien. Et donc la distribution de jeux par les réseaux téléphoniques et sur d'autres modes de consommation, par exemple au Japon, on joue très mobile, pas encore en Occident, c'est tout à fait envisageable. Mais est-ce qu'un quatrième constructeur ferait une console au sens traditionnel, je veux dire, comme une Xbox ou une PS3, je sais pas.
Et à la fois, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le ticket d'entrée n'a jamais été aussi cher. Et quand on voit le dernier entrant, hein, Microsoft, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans que c'est des milliards de pertes. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit un énorme groupe derrière qui soit prêt et qui sache que sur, en tout cas, la première génération, il perdra de l'argent, même si sa console est une réussite. Et donc ça, déjà, ça diminue automatiquement énormément le nombre de clients possibles à ce genre de choses. Et puis quatre acteurs sur un même marché, s'il n'y en a pas un qui part en...
Il faut qu'il y ait de la place pour les quatre.
C'est pas évident.
Bah, est-ce qu'il n'y aurait pas de la place par rapport à certains pays émergents, ce genre de choses? Voilà, il faut voir quoi.
Ah, par rapport à l'Inde ou la Chine, pour le moment, ils sont plutôt PC. Hein, donc ils ont pas, c'est pas une culture très console à la base, mais bon. Enfin, tout est possible de toute façon, c'est de l'avenir hein, dont on parle. Donc,
Et n'oubliez pas qu'il y a eu une tentative pas si longtemps avec la Phantom, qui fut fantomatique certes, mais enfin bon, ils ont essayé, bien mal leur en a pris. Ils ont eu des problèmes, voilà. Allez, on va passer le micro à Tortue Géniale. Tortue Géniale, on t'a entendu tout à l'heure, mais ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Là, c'est ta question. Allez, c'est parti.
Alors donc ma question, elle a été amorcée avec la question précédente, c'est donc l'Inde et la Chine arrivent un petit peu dans tous les domaines. La Chine envoie des satellites, ils commencent à construire des voitures et tout. Et
ils commencent à faire des voitures.
Ils font des voitures. Ouais. Et donc ma question, c'était est-ce que vous pensez que la Chine, à moyen ou à court terme, va se lancer dans une machine de jeu de manière internationale? Parce qu'ils ont quelques machines qui restent dans
ça,
le.
Ça, c'est intéressant. Ouais, parce, ouais.
Parce que ils ont des clones et des trucs comme ça.
Clone de la Wii, j'avais vu.
C'est comme le Brésil aussi à l'époque avait des fausses Mega Drive et des fausses machins.
Master System.
Master System. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Chine, quelque part, est un marché quasiment autosuffisant. Ça veut dire que s'il y avait une machine qui s'imposait rien qu'en Chine,
encore faut-il que les Chinois aient les moyens d'acheter ce genre de machine aussi. Tu vois, parce que pour le moment, par exemple, quand on prend le marché du MMO en Chine qui est très fort. C'est pas du tout les mêmes modèles que nous, ils payent beaucoup moins cher, etc. C'est pas du tout la même économie. J'aurais plus tendance à penser que l'Inde est potentiellement intéressée par ce genre de choses, mais encore une fois, en tous les cas pour l'instant, statistiquement, ils jouent beaucoup plus sur PC, ce sont des joueurs PC, et que, c'est encore une fois, une question de culture aussi, c'est que tu peux créer un marché et donner envie à des gens de s'investir là-dessus. Maintenant, si culturellement la Chine ou l'Inde devaient attaquer le marché mondial en lançant une console et donc s'intéresser à autre chose que ce qui se passe chez eux, ils seront confrontés à d'autres problèmes qui sont la connaissance de ces marchés, qui n'ont jamais investi, des cultures occidentales et tout ça. Donc c'est plus compliqué a priori qu'on ne pourrait le croire. Mais c'est pas simplement une question de puissance économique émergente, quoi.
Ouais, et puis n'oubliez pas que ce podcast est sponsorisé par l'aspirine Aspro 28. Et c'est pour ça qu'on a garanti ces questions en fin de podcast. Mais effectivement, c'est passionnant. Mais c'est des débats assez insolubles pour l'instant. Hein. Il y a peu de réponses qu'on peut apporter. Il n'y a pas eu encore de grands noms. On attendra peut-être des déclarations. Mais pour l'instant, c'est surtout de discours d'intention.
Dans tous les cas, en Inde, il y a un marché du développement qui est très développé. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes là-bas qui commencent à s'installer.
Oui, alors une réaction de The Reaper à qui on va passer un micro. Regardez, hop, c'est magique, c'est génial, c'est les podcasts de Gameblog.
Moi, je voulais juste réagir à ce que disait Raon. C'est quelque part, je pense qu'il y a une question de culture aussi. Et pour l'instant,
en Inde et en Chine, c'est surtout de la sous-traitance. Il n'y a pas de grand groupe industriel qui a les moyens, les épaules suffisantes pour investir le marché de la console. Il n'y a pas de Sony, il n'y a pas de Microsoft, il n'y a pas de Nintendo, etc. Pour l'instant, c'est surtout de la sous-traitance, surtout des petites entreprises qui font... Alors, peut-être avec beaucoup de talent, avec des gens qui sont très, très qualifiés. Mais pour l'instant, il n'y a pas de groupe qui a financièrement la capacité de se lancer. Alors peut-être dans 10, 15, 20 ans, peut-être. Mais moi, personnellement, j'y crois pas à moyen terme. Moi, je pense que ça va venir quand ces pays-là seront économiquement... viables, mais non seulement au niveau international, mais aussi surtout au niveau national. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces pays-là sont des pays qui restent quand même... en grande majorité des pays relativement pauvres. Il ne faut pas se focaliser sur le...
Bah, en tout cas, il ne faut pas oublier non plus que le jeu vidéo est finalement très jeune et qu'il y a eu énormément d'acteurs qui ont déjà tenté leur chance. Il y a Apple avec la Pipine qui a déjà quand même tenté sa chance avec un succès incroyable. Il y a eu Bandai avec la Pledia, il y a eu 3DO, il y a eu Atari bien sûr qu'on ne peut pas oublier et il y en a eu tant d'autres. Donc de dire qu'aujourd'hui les acteurs actuels, il n'y en aura aucun autre, ce serait une grosse bêtise probablement à énoncer aujourd'hui.
Ça, c'est certain. Ouais.
Et donc on ne sait pas encore de quoi l'avenir est fait. Et là,
il y a toujours la chimère de la console unique ou de la disparition des consoles et du passage à un nouveau modèle, on n'en sait rien. Peut-être que d'ici là, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses auront changé.
La question de la console unique. Allez, j'aimerais mettre un maximum de pression et donc que tout le monde applaudisse Mister Chip, qui va avoir l'insigne honneur de poser la toute dernière question de ce podcast. Si avec ça, tu ne nous poses pas la question Célesto Cosmique, je ne sais pas quoi faire de plus. C'est à toi, Mister Chip.
Tout d'abord, bonsoir à tous. Moi, ma question, c'est par rapport à un numéro de Edge dont je me souviens, où il disait que la PSP, c'était le futur du jeu vidéo et qu'elle allait limite enterrer la PS2.
Ah oui, bah c'est...
voilà.
Les aime bien, Edge, pourtant.
Et donc, je voulais savoir si vous aviez déjà fait des prévisions Paco Rabanesque bien foireuses sur le succès ou non-succès de certaines machines.
Angel, visiblement.
On avait misé sur l'Enterprise à un moment.
Non, mais ça, c'était un poisson d'avril.
C'était un poisson d'avril.
Par contre, je me souviens de la couve de pad sur la Jaguar, qui était le numéro 26, je crois, ou un truc comme ça. Non, autant pour l'époque.
Oh non, avec la griffe et tout, c'était classe.
Ouais, il y avait les deux jeux de la Panthère.
Ça dépend de ta définition de la classe.
Oui, ben.
Écoute, qui l'a trouvé classe ici ? Merci, ça fait plaisir. Voilà.
Alors, il y a une main qui s'est levée, et encore, c'était par politesse.
Mais c'est normal, ils sont trop jeunes. Donc oui, effectivement, à l'époque, le numéro de la Jaguar, ça a été... je crois que la croche de couve, c'était la console la plus puissante du monde. Un truc comme ça.
Dire comme connerie quand c'est on est jeune hein.
Et pour faire vendre.
Voilà, il faut quand même savoir que c'était en 80... C'était 92 ou 93, je sais plus.
Non, mais juste l'accroche pour la couverture chez nous, c'était le plus beau jeu du monde. Voilà.
Ah, ça, c'était vrai, à l'époque.
C'est vrai.
Bah ouais, tout à fait.
Oui, mais on connaît la suite, voilà.
La triste
non, justement, tu la connais pas, c'est ça ton problème.
Alors, on revient avec nos prédictions de l'époque.
Voilà, ça, je crois que ça a été certainement la plus grosse vôtre de toute l'histoire de notre carrière de journalisme.
Et à la fois, j'ai envie de dire que sur Gameblog, ça fait à peu près 2 ans chaque année qu'on dit « Ah, c'est l'année de la PS3 !» Ah non, c'est l'année prochaine. Et on n'est pas peu fiers de dire qu'en France, quand même, l'année dernière, c'est la PS3 qui s'est le mieux vendue des consoles HD.
On a eu de la chatte parce que c'est quand même le seul pays.
Et c'est vraiment grâce à nous.
Ah, c'est évidemment, bien évidemment, grâce à nous. Vu à quel point on encense les jeux sur PS3, mais enfin, à la fois, nous, qui aime bien, châtie bien.
Et on aime beaucoup.
Uncharted, on adore, par exemple.
Ouais.
Bah, on aimerait qu'il y ait un peu plus de jeux. Killzone 2, c'est un bon jeu.
Bien sûr, mais il y en a plein.
Bien sûr, puis il y en a beaucoup à venir. Mais
l'air, on a kiffé.
Avec joie, bonne humeur, sourire, galamment, voilà. Bon, j'ai envie de dire qu'on n'a pas dit beaucoup de conneries, sinon. Pas tant que ça.
Bon, si, vous trouvez. Vous avez des souvenirs.
Parce que Mister Chip, tu poses la question, peut-être parce que tu as un souvenir d'une bêtise que nous aurions
fait. Une casserole à nous sortir. Ouais.
Non, tu veux nous humilier en fin de podcast. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur. Ah, alors attention, tant plus génial qu'il peut-être se rappelle d'une.
Il nous humilie.
Moi, je crois que je me rappelle d'une que Julien C avait dit sur un podcast.
Qu'est-ce que j'ai raconté ?
Sur le TGS de cette année, où il disait que justement Resident Evil 5, c'était la tuerie de la mort qui tue.
Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit visuellement, ça s'annonce comme un jeu exceptionnel.
Et ça reste le cas.
Ce qui est complètement. Ouais. Mais je ne pouvais pas juger le fond ne l'ayant pas eu en main, puisque ça fait à peu près 2 mois dans mes impressions, vous pouvez le voir sur le site, que je vous mets des gros warnings, attention, attention, ça sent pas bon, etc. Et effectivement, je vous le confirme, puisque le jeu est une coquille vide.
Ouais, moi, j'ai le souvenir d'un numéro 100 de Joypad qui avait répertorié les bourdes, quelques-unes, dont notamment une PlayStation Plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
qui était notamment doté de plus de RAM à l'époque. C'était alors je sais plus pour quel jeu, moi c'était pas pour FF7 où justement le jeu était tellement tellement costaud que il fallait une PlayStation Plus pour faire tourner avec plus de RAM, etc. Et c'était ça avait été, vous aviez fait une carrément une news dessus.
Non, ça devait être pour faire vendre ça.
Voilà, je
non, parce que les clients, enfin les lecteurs aiment bien ce genre de scoop.
Écoutez, on a les noms, Tortue Géniale, on l'invite plus, The Reaper, la même. Allez hop, ça c'est fait. Bon, en tout cas, on a vraiment, au nom de toute l'équipe de Gameblog, envie de tous vous remercier hein, ici, et puis ceux qui écoutaient chez nous, chez vous. Hein. Oui, Angel qui veut...
Donc, dédicace à Edelon, qui nous
ouais,
a
oui, bien sûr,
gentiment accueilli. Une dédicace à la Toon 64.
Tout à fait, la Toon 64 qui n'était pas parmi nous. Et puis ce beau Loft in Game, quatrième session, hein, y en aura d'autres. Bah justement, tiens, viens celui qu'on appelle Alex ou Axel. Est-ce que, parce que beaucoup de personnes nous posent la question, est-ce qu'un jour il y aura un lofting game en province?
Alors le but bien sûr c'est de faire des lofting games un peu partout, je vais pas à dire Paris. Dans le monde parce que ça pourrait être prétentieux hein, mais déjà en France, voilà, donc Paris, on va essayer de tanner un peu les éditeurs pour essayer d'aller Lille, Roubaix, Limoges, non peut-être pas Limoges, voilà, Tourcoing, Vénissieux, Villeneuve-d'Ascq, tous ces genres d'endroits. Non, bon, le but, c'est essayer effectivement de faire ce genre de réunion un petit peu sympa, informelle, gratos, voilà, à la cool, à la fraîche, etc., tout ce qu'on veut, le plus possible. Voilà, c'est sûr que c'est pas facile, mais déjà, je suis bien content que ça marche bien, qu'on puisse faire de belles choses avec Gameblog. Voilà, ce genre de podcast un petit peu avec les lecteurs, et voilà.
Tu parles bien, Axel.
Ouais,
tu parles
bien. Bien. Il aime bien faire des choses qui marchent bien. Ça me fait plaisir. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Hein. Et je crois que vous pouvez vous applaudir tous. Merci infiniment au nom de Gameblog hein, d'avoir participé à ce premier podcast qui vous donne la parole. C'est le premier, mais c'est loin d'être le dernier. C'est une certitude. On le fera hein, dans les mois à venir, dans les années à venir, puisque vous le savez, hein, c'est la passion qui nous réunit tous autour du micro, sur le site, dans les forums, partout. Maintenant, bah, ça y est, vous pouvez d'ailleurs vous lâcher. C'est la phrase de fin à chaque fois. Et commenter ce podcast et dire qu'est-ce qu'on a pu oublier ou quoi que ce soit. Et réagir si vous avez
toutes
questions.
Tous ceux qui sont ici pourront partager leur expérience et l'écrire.
Et vous dire un peu comment ça s'est passé, les coulisses. Est-ce que je dis vraiment Wrath of the Lich King ou Wrath of the Lich King, des questions comme ça. Est-ce que la table à repasser était là? Est-ce que Dips a un dernier mot? Oui,
dernier mot Dips. Pour tous les lecteurs, je remercie l'équipe de Gameblog et longue vie à vous surtout.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. J'ai envie de vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui risque de parler de survival horror, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et donc, un podcast terrifiant, j'ai envie de dire.
Anxiogène.
Allez, j'ai envie de dire, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas, le jeu vidéo a déjà gagné, mais ne le sait pas encore. Allez, ciao, ciao.
Salut.